1, 2, ah. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonjour. Et merci d'être venus, nombreuses et nombreux, à ce grand meeting organisé par Reporters sans frontières, en solidarité avec la rédaction du JDD pour défendre l'indépendance éditoriale. Je me présente, je m'appelle Jean Massier, je suis streamer politique sur la plateforme Twitch. J'en profite pour saluer les personnes qui n'ont pas pu être avec nous ce soir, mais qui nous regardent sur la page Facebook de Reporters sans frontières en direct. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de Reporters sans frontières. Je salue également les personnes qui nous regardent en direct sur Twitch, sur la chaîne de David Dufresne, ainsi que sur la mienne. L'indépendance des médias est aujourd'hui menacée en France. Menacée par le système Bolloré, dont on connaît les méthodes brutales pour asseoir l'emprise de son actionnaire et en imposer l'idéologie. Ces pratiques représentent un véritable danger pour la liberté de la presse, mais aussi pour notre démocratie. Ce soir, des personnalités médiatiques et politiques, ainsi que des intellectuels, viendront s'exprimer sur scène. Des associations, syndicats et collectifs de journalistes également, ils sont partenaires de la soirée, je les cite, « Informer n'est pas un délit, stop Bolloré, un bout des médias, journalisme et citoyenneté ». Nous entendrons bien sûr la rédaction du JDD, qui est en grève depuis vendredi dernier, suite à l'annonce de la nomination honteuse de Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Une rédaction mobilisée pour l'avenir de son journal, l'indépendance éditoriale et l'honnêteté de l'information. Je vous propose que nous les applaudissions. Merci, merci pour elles et eux. Je vous propose d'entamer la soirée par la projection du documentaire Le Système B, qui a été produit par Reporters sans frontières, c'était en 2021. Un film qui montre la mécanique d'emprise et d'intimidation exercée sur les journalistes par Vincent Bolloré lorsqu'il prend le contrôle d'un média et lorsque des journalistes enquêtent sur ses activités industrielles.
Vincent Bolloré n'est pas un actionnaire comme les autres.
On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous.
On n'est plus dans la production journalistique. On est dans autre chose.
C'est une vision du journalisme aux ordres.
Oui, c'est la brutalité totale. Enfin, tout le monde s'accorde à le décrire comme ça.
On s'est rendu compte qu'on était 30 ou 40 journalistes différents, de différents médias, toutes sensibilités confondues, à avoir été attaqués par Vincent Bolloré.
De manière quasi systématique, il attaque tous les médias et tous les journalistes qui souhaitent enquêter pour mettre en lumière ces pratiques problématiques.
En termes de massacre de l'information, d'instrumentalisation de l'information, de propagande, la violence de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie, est absolument terrible.
Vincent Bolloré n'est pas un actionnaire comme les autres, parce qu'on a pu voir dans d'autres médias dont il a pris le contrôle, la manière dont ça s'était passé, la grande grève d'ITélé qui nous avait tous beaucoup marqués dans le métier. C'est ça qu'on ne voulait pas qu'il arrive à Europe 1 et c'est ça qu'on redoutait.
On a perçu assez vite que le plan de départ qui visait à réduire les effectifs de la radio et son train de vie, puisque c'était de ça dont il était question, devrait être aussi l'occasion d'un changement éditorial et de la confection d'une radio low cost sur le plan des moyens donnés à l'information.
Il y a sûrement plusieurs manières de faire l'information, mais il doit y avoir des fondamentaux qui restent et qui sont de vérifier des faits, de les décrypter et de les décrypter dans un souci de pluralisme et d'honnêteté intellectuelle. Voilà.
Ce qu'on a comme exemple sous les yeux, c'est CNews. C'est une soi-disant chaîne d'information qui en réalité est une chaîne d'opinion. Et donc il y a très peu d'informations en réalité. C'est vraiment des gens qui expriment une opinion extrêmement tranchée, pas dans la nuance, souvent peu informée.
Ils ont fait une chaîne qui ne coûte pas cher et qui fait de l'audience. Donc pour un patron d'industrie, franchement, je pense que c'est parfait. Par contre, pour l'indépendance éditoriale et la notion qu'on se fait du journalisme, pas forcément, on va dire.
C'est pas la couleur de l'idéologie qui nous effrayait, c'est simplement la façon de s'éloigner des principes du journalisme tel que Europe 1 le pratiquait depuis plus de 60 ans. Voilà.
Quand ça arrive, c'est extrêmement douloureux parce que vous vous sentez très impuissant. L'ensemble des journalistes, enfin l'immense majorité des journalistes a vécu ça un peu comme un braquage.
C'est d'une violence. Aucune réponse. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça a duré le temps que ça a duré, quoi. Plus d'un mois de grève pour qu'au final on soit, je ne sais plus combien, 120. Une centaine à partir.
C'est extrêmement violent, mais c'est sans doute les méthodes d'un raideur. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver dans une boîte, qui va couper toutes les têtes et puis qui va refaire son truc. Alors les rédactions ne sont pas habituées à ça, mais il va se retrouver avec des gens qui soit sont d'accord, soit n'osent pas parler, qui en tout cas sont mis au pas.
Vincent Bolloré, donc, met son veto sur cette enquête. Donc, on choisit la négociation. On se dit, allez, on va se battre pour qu'ils entendent raison. Il faut diffuser cette enquête. Ce serait un fait très grave, Canal Plus a la réputation d'être une chaîne libre. On négocie, on pense qu'on va y arriver. Sincèrement, on pense qu'on va y arriver. Et on y arrive.
En fait, pour résumer, cette histoire du Crédit Mutuel, c'est l'histoire d'un groupe de journalistes qui croient en leur travail, qui croient en l'enquête, qui produisent une enquête journalistique de qualité et qui se font censurer par un grand patron en direct, sans crier garde en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'était pas du tout à imaginer la moindre intervention possible d'un grand patron dans cette histoire. On a été vraiment très surpris. Le résultat, c'est que on a tous été virés de Canal+.
L'information un peu impertinente, un peu indépendante, un peu enquêtée, ça on sent très bien que c'est pas du tout son truc. Donc l'investigation, il va la censurer, l'abîmer et finalement la supprimer en juin 2016. Les journaux télévisés de Canal, qui avaient un petit ton un petit peu moderne, ils sont supprimés également très rapidement après l'arrivée de Bolloré à la tête de la chaîne. Les Guignols, on vire les auteurs, Barthès est mis sous pression, le zapping est mis sous pression. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir une mémoire télévisuelle et de dire « il s'est passé ça dans la télévision, c'est intéressant de le mettre en perspective avec d'autres événements », ça aussi, ça dérange. Donc en gros, tout dérange.
Vincent Bolloré n'en a rien à faire de l'image qu'il peut donner. Quelque chose ne lui plaît pas, il le retire de l'antenne. Une direction n'est pas exactement dans sa ligne ou ne veut pas servir exactement ce qu'il a en tête à ce moment-là, elle est décapitée. C'est une version totalitaire du journalisme. J'emploie à dessein ce terme. Vincent Bolloré a dit lui-même que la direction d'un groupe de cette taille nécessitait un peu de terreur.
En fait, c'est pas du tout par hasard qu'il dit ça. C'est-à-dire que, oui, c'est quelqu'un qui gère par la terreur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que qui que ce soit résiste aux oukases de l'actionnaire, surtout pas en matière d'information, parce que l'information est stratégique pour lui et il veut en faire exactement ce qu'il veut. Et donc, les journalistes sont des petits soldats.
Je trouve que ce procès-là correspond à un tournant dans la stratégie de Vincent Bolloré. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Vincent Bolloré, le groupe Vincent Bolloré, va poursuivre quasiment systématiquement tous les journalistes, les associations ou les ONG qui vont évoquer ces activités africaines.
Je pense que c'est normal qu'un grand patron comme Vincent Bolloré puisse attaquer un journaliste si jamais il s'estime diffamé. On peut pas raconter n'importe quoi dans nos articles et dans nos reportages. Mais là, on a l'impression que de la part de Vincent Bolloré, il y a un abus de procédure. J'ai eu au total 5 audiences face à Vincent Bolloré, 5 procès. On a gagné les 5.
Basta a publié un article, une enquête sur l'accaparement des terres dans les pays du Sud, dans laquelle le groupe Bolloré aurait été cité. On avait envisagé effectivement que cet article ne plairait pas à certaines multinationales et pour le moment, on n'a eu aucun problème avec aucune autre entreprise à part le groupe Bolloré.
La procédure pour diffamation, ça lui suffit pas à Bolloré. Il va aussi vous attaquer devant le tribunal de commerce en expliquant que ce que vous avez fait, non seulement c'est diffamatoire, mais c'est même du dénigrement. Vous faites de la concurrence déloyale parce que vous-même, vous êtes un média et vous ne supportez pas la manière dont lui pratique ses médias. Voilà. Ou alors, ça a été mon cas, vous attaquez devant une justice étrangère. En l'occurrence, moi, j'ai été attaqué via la Socapalm, qui est une filiale du groupe Bolloré, devant le tribunal de Douala au Cameroun, dans un pays où la diffamation est punie d'une peine de prison ferme, 6 mois de prison, je crois, au maximum, et surtout de détention provisoire en attendant d'avoir un procès. Donc voilà, c'est, je pense, une des singularités de Vincent Bolloré, c'est de passer par tout un tas d'artifices procéduraux pour essayer de vous faire taire, en gros, en n'utilisant pas les procédures habituelles, à savoir le procès pour diffamation.
Ce qu'on a trouvé problématique aussi dans cette procédure, c'est qu'on n'était pas seul sur le banc des accusés. Il y avait également avec nous Rue 89 et son directeur de publication Pierre Aski, qui était là pour avoir osé citer dans sa revue de presse notre article, notre enquête sur l'accaparement des terres et le rôle du groupe Bolloré dans ce processus. Et puis il y avait également des particuliers qui avaient comme unique tort d'avoir publié sur leur blog un lien hypertexte vers notre enquête. Donc vous imaginez bien l'angoisse que peuvent avoir un professeur des écoles à la retraite et un ébéniste qui se retrouve convoqué par le tribunal à Paris 2 fois de suite pour avoir publié juste un lien sur leur blog.
Je ne pensais pas que M. Bolloré allait nous attaquer pendant la rédaction du livre. Ça a été une surprise. Me demandant à moi, personnellement, 750 000 euros de dommages et intérêts.
Nous sommes des travailleurs du terrain. Notre but est de récolter des faits, de recouper des faits, des sources, pour interroger les pouvoirs et bien sûr donner la parole à ceux qui sont mis en cause dans les enquêtes que nous produisons. Chose que Vincent Bolloré ne fait pas. Quand vous lui demandez une interview, la plupart du temps, il vous envoie un huissier. Ou alors il vous fait un procès. Avant même que l'enquête soit sortie.
Si je me souviens bien de la formulation de la lettre envoyée par le président de Vivendi à l'époque, j'aurais, par mes SMS et mes mails répétés, dérangé la bonne marche de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je ne faisais que le contradictoire, c'est-à-dire que je demandais l'avis des gens que je citais dans le livre pour qu'ils puissent me répondre. Donc 20 mails et 14 SMS, ce serait déranger la bonne marche de l'entreprise Vivendi. C'est me donner quand même beaucoup de pouvoir.
Si je compte bien, ça fait plus de 10 ans que j'ai des procédures judiciaires avec Vincent Bolloré. Ça ressemble à une histoire presque sans fin.
J'ai été 5 fois opposé à lui dans des tribunaux français. Les 5 fois, j'ai gagné. Les 5 fois, il a perdu. Et néanmoins, je sais que ça a coûté extrêmement cher à mon employeur, que France Télévisions en est à plusieurs centaines de milliers d'euros de frais de procédure. Et c'est pas quelque chose que je trouve normal.
Ce qui nous a vraiment posé souci dans cette démarche, c'est l'acharnement dont il a fait preuve. Le fait qu'il fasse appel d'une décision de justice, qu'il aille jusqu'en cours de cassation. On sait pas combien d'années ça va durer. On sait pas s'il va y avoir un procès ou s'il va y en avoir plusieurs. On sait pas combien ça va coûter à notre média. Donc c'est des incertitudes qui sont problématiques et qui sont des menaces vraiment pour notre travail.
Si jamais son but était de gagner ses procès, il arrêterait peut-être d'en faire ou il essaierait d'être un peu plus solide d'un point de vue juridique. Il perd quasiment à chaque fois. En revanche, même quand il perd, il gagne en fait quelque part parce qu'au final, il a réussi à vous faire perdre du temps, à vous faire perdre de l'argent et surtout, il peut dissuader d'autres personnes d'enquêter sur lui.
Je crois que derrière ces multiples procédures judiciaires, il y a une triple volonté, je résumerai ça en 3 mots, intimider, détournée et épuisée.
On est vraiment dans des poursuites qui sont, pour moi, abusives, qui sont des poursuites bâillons, qui visent à ce que les médias se censurent ou s'autocensurent sur ces sujets qui sont sensibles pour le groupe Bolloré.
Les procédures bâillons sont le bras armé de ce règne de la terreur. Donc vous prenez des risques éditoriaux et juridiques énormes en enquêtant sur Vincent Bolloré. Ça suffit à écraser toute velléité d'enquête chez 90 ou 95% de la population des journalistes qui aimeraient s'intéresser à Vincent Bolloré.
Faut comprendre que Vincent Bolloré, c'est pas l'information qui l'intéresse, c'est l'influence. Et donc, pour avoir une influence qui lui permet soit d'être ami avec les politiques, soit de signer des contrats en Afrique, eh bien, il faut qu'il donne l'impression qu'il a une influence médiatique importante.
Vincent Bolloré a un énorme groupe. Il a une chaîne payante qui est Canal+, une chaîne info qui est un outil d'influence, une radio, un groupe de presse qui est Prisma, plus ce qui risque de prendre sur l'édition qui appartient aujourd'hui au groupe Lagardère. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous.
Après tout, on peut se dire, ben, Bolloré, il finance, il fait ce qu'il veut. Sauf que là, c'est de l'information. Donc c'est très important, évidemment. C'est-à-dire que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Sinon, il n'y a plus vraiment de démocratie.
Ça dépasse largement juste l'enjeu d'Europe 1 ou juste l'enjeu de CNews. C'est vraiment le débat démocratique qui est en cause par le contrôle de certains médias, par un type d'idée, un camp politique. Et ça, c'est un vrai problème.
La raison d'être et le modèle économique de certaines chaînes d'information, c'est pas de produire de la vérité, c'est pas de fabriquer de l'information, c'est de fabriquer de la discorde, de la polémique, ce qu'on appelle des clashs ou du buzz. Donc c'est d'une nature très différente. C'est pour ça que je parle d'un renversement historique de la fonction du journalisme.
Je pense que Vincent Bolloré assume totalement d'instrumentaliser l'information. Et comme les politiques ne font pas appliquer les lois, en l'occurrence la loi Bloch, qui en principe interdit à un actionnaire d'entraver la liberté éditoriale pour protéger ses intérêts de businessman, et à force de laisser faire, les politiques ont laissé ces industriels mettre la main sur 95% des médias privés français, au point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait aller briguer le suffrage des électeurs en France aurait beaucoup de mal à se passer de ces médias privés et donc est obligé de montrer patte blanche. Donc la démocratie est dévoyée gravement parce que les politiques n'ont pas juste imposé une autorité public qui défend l'intérêt général.
Donc en fait, remettre au centre du jeu l'intérêt général, remettre au centre du jeu ce que nous sommes, nous journalistes, est une priorité en ce moment, dans un moment où les médias sont extrêmement concentrés, dans un moment où les grands patrons, que ce soit Monsieur Bolloré ou d'autres, ont d'énormes pouvoirs sur la presse. Donc remettre au centre du jeu le fait que nous faisons partie, nous journalistes, à notre niveau, du système démocratique. C'est capital dans une période très tendue, très violente, où les médias sont très critiqués.
Mesdames et messieurs, je vous propose que nous accueillions sur scène sans plus tarder Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Qui aurait dit que nous nous retrouverions un mardi soir, en urgence, tous mobilisés pour la rédaction du JDD au nom de la liberté de la presse et de l'indépendance ? Je suis très impressionné ce soir. Nous avons lancé l'invitation hier matin. Ce soir, vous êtes près d'un millier de personnes réunies ici au nom d'un idéal. Je suis très impressionné parce que dans la salle, il y a partout des personnalités, des personnalités qui ont des hautes fonctions dans la République, des personnalités politiques de différents camps, des personnalités syndicales, des personnalités des médias qui ne prendront pas la parole et qui sont venus discrètement pour se mobiliser au nom de cet idéal. Nous allons ce soir défendre un journal à un moment de rupture, à un moment de trahison. Nous allons ce soir rendre hommage à une rédaction en grève et qui est là tout entière, unie. Quel geste, quel message. Merci pour eux. Nous allons ce soir nous mobiliser pour éviter un nouveau carnage dans une rédaction. Et Bolloré a démontré, et le film que nous venons de voir le démontre amplement, ce qu'il était capable de faire partout. Nous allons dire non à un ogre qui dévore les médias d'information, qui dévore le journalisme et le transforme en opinion. Nous allons revendiquer la mise en place de mécanismes concrets qui permettent de protéger le journalisme face à la puissance de l'argent. Les propositions sont sur la table, il faut maintenant les mettre en œuvre. Nous allons enfin, à la fin de cette soirée, lancer l'appel du 27 juin pour l'indépendance éditoriale du journalisme. L'indépendance éditoriale, sujet numéro 1 pour les Français quand on les interroge sur les médias. Le baromètre de la Croix, deux chiffres. Édition 2023. Seulement 26% des Français considèrent que les journalistes résistent aux pressions de l'argent. C'est 24% pour les pressions du pouvoir. Ces chiffres, cette réalité, c'est une tragédie pour le journalisme, c'est une tragédie pour la démocratie. Alors oui, nous journalistes devons balayer devant notre porte, mais si cette porte, c'est la porte d'un oligarque qui capture les médias, alors nous sommes dans une impasse. Nous sommes tous réunis ici ce soir dans l'esprit de 1881. La liberté de la presse, ça n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. La liberté de la presse n'appartient pas à un camp, elle n'est pas l'ennemi d'un autre. Elle est un bien commun. Nous avons tout fait pour que ce meeting soit le plus transpartisan possible. Le combat pour la liberté de la presse ne doit pas être l'otage de polarisation. Mais voilà, Bolloré fait peur. Certains n'osent pas s'aventurer à défendre des principes face à la crainte des représailles, à la crainte, disons-le, d'une censure privée. À ceux qui prétendent que Bolloré ajoute au pluralisme, je le dis, la théorie du rééquilibrage politique ne tient pas. Ce n'est pas avec la capture oligarchique qu'on fait du pluralisme. Nous sommes réunis ici dans l'esprit de 1881, alliés à l'esprit des grandes dates de la construction de l'éthique journalistique, 1918, 1971, aux mesures prises pour l'indépendance des médias, leur affranchissement des puissances d'argent en 1946. Nous sommes là dans une logique d'articulation de la liberté et de l'éthique. Or, le système Bolloré, on l'a vu, c'est tout le contraire. C'est le système de capture oligarchique poussé à l'extrême. Un véritable mépris des lois. Nous avons d'ailleurs alerté récemment la Commission européenne pour un potentiel gun jumping, une prise de contrôle anticipée des médias du groupe Lagardère par Vivendi. Et nous attendons qu'une enquête approfondie soit maintenant menée par la Commission européenne. Malheureusement, cette notion de gun jumping n'était pas dans le premier rapport et dans la validation de la fusion, du rachat. Le système B, c'est un système d'intimidation et de terreur, une conception du journalisme fondée sur la servilité et les conflits d'intérêts érigés en principe. Nous l'avons exposé dans ce documentaire, et je dois dire que c'est pour certains, être là dans cette salle ce soir, c'est un acte de courage. C'est hallucinant de penser que c'est un acte de courage pour certains d'être ce soir dans une salle pour la liberté d'opinion, pour le droit à l'information. Le système B, c'est la domination de l'opinion pure. La part dédiée à l'énoncé des faits, fondement de la liberté d'opinion, est réduite à la pension congrue. Ce qui domine, ce qui prévaut, c'est l'intention commerciale, c'est l'intention politique, c'est l'idéologie, ça n'est pas l'obsession des faits. Nous serons à la rentrée au Conseil d'État pour soutenir que l'ARCOM doit mettre en œuvre le droit existant pour faire respecter les obligations des chaînes comme CNews. Face à l'extension du domaine de Bolloré et de son emprise, nous devons opposer l'extension de la lutte pour la liberté de la presse. Sans indépendance, pas de journalisme digne de ce nom. Sans journalisme digne de ce nom, pas d'information fiable. Sans information fiable, pas de démocratie, pas de droits humains, pas de concorde civile, pas de liberté d'opinion, pas de vraie citoyenneté. Merci pour votre mobilisation.
Merci Christophe.
Merci. Et merci à toi d'animer cette soirée.
Merci Christophe. Chers amis, je vous propose que nous commencions par une séquence rassemblant des représentants de collectifs et de syndicats. Et j'invite donc à me rejoindre sur scène pour le collectif Informer n'est pas en délit, Jean-Pierre Canet, grand reporter et réalisateur, ainsi qu'Emmanuel Gagné, rédacteur en chef de Cache Investigation. Pour l'intersyndicale. Oh. Attends. Pour l'intersyndicale, j'invite à me rejoindre Antoine Chuzéville, secrétaire général du SNJ, Johan Labrou, Satabin, CFDT, et Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT, qui prendra la parole au nom de tous les trois. Venez me rejoindre sur scène. Avec l'intersyndicale, nous recevons la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, que j'invite à me rejoindre également. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, et Arié Halimi pour le collectif Stop Bolloré. Alors, Jean-Pierre, Emmanuel, on va commencer par vous. On peut dire que vous, la méthode Bolloré, c'est du vécu. Racontez-nous.
Oui, ça fait un peu ancien combattant, hein. C'est 2015. Donc moi j'étais rédacteur en chef à AKM, une agence de presse et de boîte de production qui produisait le grand journal à Canal+, et on a donc produit le fameux documentaire sur le Crédit Mutuel. Je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez les grands traits de l'histoire. Simplement, premier enseignement, quand on a lancé cette enquête et qu'on a senti la censure arriver, on s'est dit qu'il ne fallait pas se taire. Donc on est là très nombreux aujourd'hui, il ne faut jamais se taire face à Vincent Bolloré. Il faut immédiatement poser sur la place publique les tentatives de censure, les tentatives d'intimidation qu'il produit, qu'il fabrique. Et concomitamment à cette affaire du Crédit Mutuel, donc, que nous avons portée sur la place publique, en même temps, dans le même contexte, il y avait aussi l'enquête de Tristan Walex sur un complément d'enquête qui a été attaqué. Et puis, un certain nombre de lois liberticides pour notre profession, pour la liberté de la presse, notamment l'amendement puis la loi sur le secret des affaires. Tout ça a grandi ensemble à partir de 2015, entraînant donc un volet législatif et un volet entrepreneurial, puisque nous sommes des entreprises de presse, où la presse était attaquée. Et nous avons eu énormément de mal, même si nous l'avons tout de même fait, à mobiliser la profession. Pourquoi ? Parce que la profession est souvent et tombe souvent dans le piège du débat bipartisan. On vient d'en parler à l'instant avec Christophe Deloire. Ce n'est pas une affaire de droite et de gauche, cette affaire. C'est une affaire de liberté de la presse. Et quand nous avons pris la parole dans les premiers temps pour dénoncer la censure de Vincent Bolloré, on nous a traités de gauchistes, on était les trublions. On n'a pas compris le problème, en fait. Et à chaque fois, il y a eu une nouvelle étape, iTélé. Puis tout un tas d'autres étapes. J'ai oublié Bastamag tout à l'heure. Et là, on est là pour le JDD aujourd'hui. Voilà. Et à chaque fois, les rédactions découvrent que le monstre qu'on avait décrit, il était réel. Donc il est temps que la profession se réveille. J'insiste là-dessus, je pense que notre profession n'est pas encore à la hauteur du problème, réellement. Il ne faut pas avoir peur, il faut prendre la parole. La Boétie est très à la mode en ce moment, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Je vous propose de réfléchir à ça et je vous propose, avant de passer la parole à mon collègue Emmanuel Gagné pour parler des outils, parce que c'est ça le sujet, hein, faut pas faire des batailles aveuglément. Je vous propose donc de réfléchir à cette entreprise collective que nous devons mener ensemble et de trouver un moyen de connecter avec le public, car nous ne sommes pas très populaires. C'est très important que nous y parvenions, et à défaut d'un soulèvement de la terre, peut-être qu'on va assister à un soulèvement de la presse. Ce serait pas mal.
Merci Jean-Pierre. Emmanuel, très rapidement, vas-y.
Bravo à RSF et à la rédaction du JDD d'avoir mobilisé autant de monde ce soir. Ça prouve que ce quotidien compte, cet hebdomadaire compte. Mais comme le disait Jean-Pierre, c'est une histoire qui se répète. Il y a eu Europe 1, il y a eu iTélé, maintenant le JDD. Et je pense qu'il faut que ça cesse. Et effectivement, il faut qu'il y ait une prise en compte collective des journalistes, une prise de conscience forte pour qu'on mette en place, que l'exécutif mette en place un certain nombre d'outils pour que les rédactions ne subissent plus l'intrusion des actionnaires. Des outils, il y en a, des réflexions, il y en a eu. Il y a eu, je vois David Assouline qui a travaillé sur le rapport d'enquête de la commission d'enquête du Sénat. Julia Cagé qui est là également, qui a beaucoup travaillé sur les outils pour protéger les rédactions. Je pense que malheureusement, on l'a vu, le constat, il est là, c'est que les actionnaires ont de plus en plus de pouvoir. On parle effectivement de Bolloré, mais il y a eu aussi Arnaud qui a sorti le directeur de la rédaction des Échos. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on réfléchisse à des outils pour protéger les rédactions. Le Monde a mis en place des dispositifs et il faut que le législateur, il faut que l'exécutif, par la loi, impose ces outils. Je pense que c'est une urgence absolue pour la liberté de la presse et pour la démocratie.
Merci beaucoup Emmanuel, merci. Je vais donner la parole à Sophie Binet, Marie-Lise Léon et Emmanuel Vire. Alors les organisations syndicales, je suppose que les pressions, les menaces, les procédures contre les journalistes qui travaillent dans le groupe Bolloré, ça vous préoccupe?
Oui, totalement. Je crois que ce soir, les choses, elles sont très claires. Pas question que le JDD finisse comme CNews ou Europe 1. La stratégie violente de Bolloré, on la connaît, elle a été résumée dans le film. Alors maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour adapter la stratégie. Je pense que la stratégie, elle repose sur deux points. La première chose, c'est qu'il ne faut pas laisser les journalistes du JDD seuls. Il faut montrer que la situation du JDD, des journalistes et des salariés du JDD nous concerne toutes et tous. D'abord parce que c'est une question démocratique et parce que, comme syndicaliste, je suis bien placée pour le savoir, l'information, c'est pas la même chose que la propagande. Nous, la propagande, la communication, on en fait tous les jours. Vous, vous faites l'information et on a besoin d'avoir de l'information. On a besoin d'avoir de l'information et c'est un enjeu démocratique central parce que c'est la question du pouvoir des citoyens face au monde des affaires. On s'est mobilisé ensemble, et ça a été rappelé, contre la directive sur le secret des affaires. On n'a pas tout gagné, mais on a gagné quand même un certain nombre de verrous grâce à notre mobilisation collective. Et on sait qu'on a plus que jamais besoin de journalisme d'investigation pour illustrer sur ce que fait le monde des affaires et ne pas justement laisser les affaires du monde au monde des affaires. Et puis, la deuxième raison pour laquelle le JDD, ça nous concerne toutes et tous, c'est que c'est pas seulement une affaire financière. C'est une affaire idéologique. On le sait, il ne s'en cache pas. Sa stratégie sur les médias, c'est un objectif idéologique, culturel, de préparer la prise de pouvoir de l'extrême droite. Et on sait que la situation, elle est extrêmement préoccupante en France aujourd'hui. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Et cette extension de l'empire médiatique de Bolloré, elle nous alerte sur ce point parce que c'est le copier-coller de la stratégie de Trump pour arriver au pouvoir aux États-Unis. Et donc, le deuxième point de notre stratégie, on ne laisse pas les journalistes du JDD tout seuls, et puis on tire des leçons de la situation actuelle. On voit bien que les outils actuels sont totalement insuffisants pour protéger la liberté de la presse. Donc il faut interpeller le législateur, il faut agir sur les aides à la presse, il faut agir sur la loi Bloch est insuffisante, et il faut agir au plan européen, puisque nous sommes en train de négocier une directive européenne sur la liberté d'informer, et que justement la France... Eh bien, elle brille par son absence de position. Donc là, la France, elle doit être claire et elle doit défendre une directive qui solidifie les journalistes. Alors je crois que maintenant, il faut être clair sur le fait que ça ne sera plus possible de dire demain, au lendemain de la mobilisation des journalistes du JDD, on ne savait pas. Non, là maintenant, tout le monde sait quelle est la stratégie violente de Bolloré. Ça ne sera plus possible non plus de dire demain, on ne pouvait rien faire. Oui, on peut faire des choses. Et donc, que l'on lise ou pas le JDD, que l'on aime ou pas le JDD, la situation du JDD, de ses salariés, de ses journalistes, nous concerne toutes et tous. Soutien total pour gagner dans cette mobilisation.
Merci beaucoup, Sophie Binet. Marie-Lise Léon.
Je m'avance. Je voulais juste dire deux mots. ça a été déjà dit à plusieurs reprises, je pense qu'il n'y a pas de fatalité pour que le combat aujourd'hui des journalistes du JDD puisse trouver une issue favorable, une issue positive. Ça passe par le fait qu'on puisse faire collectif. Donc moi, je tiens d'abord à souligner le courage des journalistes de la rédaction du JDD qui savent se mobiliser. Je pense qu'il y a... C'est un enjeu qui va concerner tous les citoyens ou les citoyennes, qu'on soit lecteur ou pas du JDD, c'est un sujet. On peut avoir une pluralité de médias. Ce qui compte, c'est que cette pluralité, elle demeure et que les journalistes puissent correctement et dans de bonnes conditions faire leur travail. Et c'est certainement pas avec tout ce qui nous a été décrit tout à l'heure, à base de procès, d'intimidation, que l'exercice d'information qui est celui des journalistes peut être fait vu les conditions dans lesquelles ceux qui ont connu les évolutions à CNews ou à Europe 1, voilà, on a suffisamment de témoignages et on est suffisamment alerté pour savoir ce qui peut arriver et qu'il y a un vrai enjeu à faire collectif auprès des journalistes parce que ce qu'ils défendent c'est d'abord leur métier et les bonnes conditions d'exercice de leur métier. Ça c'est un peu notre travail de syndicaliste. C'est notre cœur de métier. Donc on est en soutien, bien entendu, de la rédaction des journalistes. On a une possibilité d'action vis-à-vis des pouvoirs publics, bien entendu. On a aussi une organisation et des organisations qui sont présentes au niveau européen. Et je pense que c'est à l'ensemble de ces échelles qu'il faut pouvoir travailler. Et notamment, comme ça a été dit, on n'est pas sur un projet économique. On est sur un projet de volonté de diffuser des opinions pour permettre l'accès de l'extrême droite au pouvoir. Toutes les planètes sont en cours d'alignement et c'est un danger sur lequel il faut qu'on puisse agir. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, outre le fait qu'il y a la question de l'exercice du métier qui est fondamentale, c'est la question du positionnement de la liberté de la presse et de la bonne... Les bonnes conditions pour pouvoir réaliser ce métier, c'est que les médias sont un contre-pouvoir dont on a besoin aujourd'hui en démocratie. Et pour la CFDT, on a déjà eu l'occasion de le dire, la démocratie, elle est aujourd'hui fragile, elle est ébranlée et on a besoin absolument de pouvoir réagir collectivement face à cette montée. Et donc ça fait partie aussi des sujets sur lesquels la CFDT sera mobilisée pour pouvoir faire en sorte que à la fois le JDD ne bascule pas en journal d'opinion au service de certaines idées que nous combattons, mais qu'il puisse aussi y avoir cette pluralité et qu'il puisse faire votre travail de journaliste dans des conditions qui permettent d'avoir une véritable démocratie et de véritables contre-pouvoirs comme on essaye de le faire à l'échelle de nous en tant que syndicat. Voilà. Mais le message essentiel, c'est soutien à la rédaction des journalistes du JDD qui font preuve de beaucoup, beaucoup de courage. Merci.
Merci Marie-Lise Léon. Emmanuel Vire pour le SNJ CGT et juste après Ariel Halimi pour le collectif Stop Bolloré.
Emmanuel. Oui, alors Emmanuel, pas à t'avancer. Ouais, mais je vais demander à mes collègues de l'intersyndical journaliste parce qu'on va lire notre.
Allez-y.
On va lire notre texte à quatre voix, juste un petit mot avant, qui va dans le même sens qu'a dit Christophe en introduction. Ça fait surtout plaisir de voir le monde qu'il y a ce soir. Après l'effet de sidération qu'on a vécu, qu'ils ont vécu, vraiment, on croyait peut-être pas pouvoir remplir autant la salle et c'est un bon point d'appui pour eux et pour nous, pour toute la profession. Donc, et merci à RSF, évidemment, pour l'organisation. Donc, on va vous lire un texte à quatre voix de l'intersyndicale, hein, qui regroupe les syndicats SNJ, SNJ-CGT et CFDT journalistes. L'heure est grave, et c'est pour nous, syndicats de journalistes, un moment décisif. La nomination de Geoffroy Lejeune menace directement l'éthique et l'indépendance journalistique. Son travail à valeur actuelle a montré combien les faits lui importaient peu et pouvaient être manipulés pour servir un agenda et un programme d'extrême droite. Ce n'est pas le rôle des journalistes de servir une stratégie politique. Il faut d'abord, bien sûr, saluer la lutte exemplaire de nos collègues du JDD qui se sont levés de manière quasi unanime contre ce nouveau coup de force de Vincent Bolloré et d'Arnaud Lagardère et qui, après l'effet de sidération qui nous a toutes et tous saisis ont décidé de mener le combat de manière responsable et déterminée, un peu à l'image de l'hebdo du dimanche auquel nous tenons.
Merci Manu. Moi je suis Manuela, je travaille pour RFI, Radio France Internationale. Tu as gardé ton badge, j'ai gardé le mien, mais en fait je pense qu'on devrait les enlever. Parce qu'aujourd'hui le seul badge qui compte c'est celui du JDD, on est là pour ça. Et donc j'aimerais vraiment que les gens de la SDJ, qui comme tu le disais ont eu le courage de se mobiliser depuis ce week-end et de nous mobiliser ce week-end, viennent nous rejoindre parce que je pense qu'ils ont leur mot à dire. En tout cas, moi je ne parle pas au nom de la CFDT, c'est pour ça que je cache mon badge aujourd'hui. Je parle en leur nom et j'espère que ne pas trahir leur volonté. Maintenant je reprends la suite du discours. Qui disait donc que oui, c'est un combat difficile car il se mène, alors que d'autres batailles ont déjà été perdues face à la volonté de Vincent Bolloré de faire des médias qu'il rachète une vitrine de ses idées réactionnaires. On pense bien sûr aux collègues d'ITélé, de Canal+, d'Europe 1, qui se sont révoltés, défendant l'honneur et le sens de notre métier, mais avec à chaque fois la même issue désastreuse. Les journalistes partent et leurs représentants, membres de nos syndicats, donc avec nos petits bras et votre force collective, on se charge de négocier ces départs du mieux possible. Mais partir n'est pas la bonne solution. Résister, selon moi, est la bonne solution.
Combien de temps cela va-t-il durer ? Comment est-il possible qu'un directeur d'une rédaction puisse être imposé alors que 99% des journalistes de la même rédaction s'y opposent ? Comment est-ce possible qu'un autre milliardaire, M. Arnault en l'occurrence, veuille remettre en cause les garanties d'indépendance du quotidien économique Les Échos, obtenues de haute lutte lors du rachat par LVMH en 2007, quand dans le même temps, LVMH nomme à la direction éditoriale d'Historia Franck Ferrand un autre collaborateur de Valeurs Actuelles ? Nous tenons aussi à saluer la lutte menée par la rédaction des Échos.
Bonsoir à tous, moi je suis Antoine Chuseville du SNJ. Je vais terminer ce message par un appel au gouvernement. Non, Madame la Ministre de la Culture, un tweet, ça ne suffit pas. Regretter la situation, être solidaire de l'équipe du JDD, ce n'est pas à la hauteur de l'urgence. Quand l'indépendance des rédactions est en jeu, quand la liberté de la presse est menacée, les paroles ne suffisent pas, nous exigeons des actes. Les dirigeants politiques qui soutiennent aujourd'hui la rédaction du JDD, où sont-ils, où étaient-ils quand il s'agit de voter des lois pour protéger les journalistes ? Aujourd'hui, il faut agir et vite. Cela fait des années que nous le réclamons. Il faut revoir de fond en comble la loi Bloche de novembre 2016 sur l'indépendance des rédactions. Il faut accorder enfin un statut juridique à l'équipe rédactionnelle afin que M. Lejeune ou d'autres ne puissent être imposés contre l'avis d'une rédaction. Il faut conditionner les aides publiques à la presse à des règles éthiques et sociales. Et bien sûr, il faut revoir les règles anti-concentration afin de sortir la presse de l'ornière dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Ces réformes sont aujourd'hui indispensables pour permettre aux journalistes de jouer leur rôle dans notre démocratie. Merci beaucoup pour votre solidarité. Bonne soirée.
Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Harry et Alimi, le collectif Stop Bolloré a été créé à la fin de l'année 2021. C'était pour lutter contre l'hyperconcentration des médias. C'était il y a seulement 2 ans. Comment a évolué la situation depuis ?
Ben de mal en pis, parce qu'il n'y a pas que la presse. Il y a également l'édition, le cinéma, tout. Les vecteurs culturels qui sont ultra concentrés. Et en fait, c'est né d'historiens, de citoyens, de journalistes, de syndicats de journalistes, d'avocats qui, interloqués par l'émission Face à l'information sur CNews, par les discours qui étaient véhiculés sur cette émission, notamment par Éric Zemmour, des discours d'appel à la guerre civile, des discours de provocation à la haine raciale qui donnaient lieu à des condamnations devant les tribunaux. On s'est dit qu'il y avait un vrai souci, mais on s'est dit qu'effectivement, il y avait une concentration des médias qui, en soi, posait un problème par rapport à la liberté de la presse et à l'information des médias, mais qu'il y avait autre chose derrière cette concentration. Il y avait une stratégie, il y avait une volonté de Bolloré d'instaurer autre chose, d'instaurer une idéologie réactionnaire. Et donc on a appelé ça la concentration réactionnaire, et cette concentration réactionnaire, elle bat son plein aujourd'hui. Cette concentration réactionnaire, ce n'est pas le simple fait d'empêcher le pluralisme des médias. C'est aussi de se servir des médias, alors qu'ils sont les vecteurs de liberté et de démocratie, pour détruire la démocratie. C'est qu'en fait, grâce aux médias acquis par Bolloré, eh bien, il y a une volonté d'instaurer une idéologie qui a pour but de détruire la démocratie. Et en soi, il y a effectivement quelque chose d'encore plus dangereux que la concentration en soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, on est en soutien au JDD, parce qu'on considère qu'il y a une bataille du JDD qui est une bataille démocratique. Et que si eh bien, on perd cette bataille, d'autres arriveront et progressivement la démocratie sera érodée. Aujourd'hui, nous appelons évidemment les pouvoirs publics à agir et pas uniquement à se dire impuissants. Ce n'est pas qu'un problème capitalistique. Ce n'est pas qu'un problème d'acquisition par un actionnaire de médias. C'est un problème de démocratie et c'est un problème que les pouvoirs publics peuvent gérer. Il y a énormément de choses, il y a des possibilités de modification de la loi de 86, il y a des possibilités d'action, de pression politique pour permettre de conserver l'indépendance des médias et le pluralisme démocratique. Voilà pourquoi le collectif Stop Bolloré est là aujourd'hui en soutien du JDD.
Merci Arié. Je vais vous inviter à quitter la scène. Je vais vous inviter à quitter la scène. On va enchaîner. Merci à tous et bravo pour votre mobilisation. On va enchaîner. Je vous propose que nous accueillons maintenant, hop là, merci, pour l'association Journalisme et Citoyenneté Frédéric Carbone. Frédéric Carbone pour l'association Journalisme et Citoyenneté, ainsi que Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, les fondateurs du média Les Jours.
Ils sont là, ils étaient en police.
Formidable. Merci. Tenez, prenez ce micro-là. Hop. Merci beaucoup. Alors, en mars dernier, vous avez décerné... Alors, je vais vous inviter à vous rapprocher de la lumière. Hop là. N'hésitez pas. En mars dernier, vous avez décerné le Grand Prix des Assises du Journalisme 2023 aux Sociétés des Journalistes du JDD et de Paris Match pour leur lutte contre l'Empire Bolloré et ses attaques contre la déontologie. Un Grand Prix qui n'avait pas pu leur être remis vu le contexte de terreur. Et ce soir, vous avez souhaité remettre ce prix.
Bah, ça nous paraît effectivement le bon endroit, le bon lieu, même si on aurait souhaité éviter cette occasion-là. Merci d'abord à Reporters sans frontières, évidemment, d'organiser cette soirée. Oui, quand on s'était réunis avec Raphaël, Isabelle et les autres membres de ce jury-là il y a quelques mois, on n'avait qu'une hésitation en fait à remettre ce prix aux Sociétés des Journalistes du JDD de Paris Match, et en se demandant si on n'allait pas leur rendre la situation encore plus difficile en faisant ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de remise officielle ce jour-là. Mais ça nous paraissait absolument évident, indispensable, et c'était une forme d'alerte qui était lancée. On ne savait pas que quelques mois après, il y allait avoir cet épisode qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc je voudrais d'abord que montent sur cette scène, parce que ce sont eux les plus importants, Juliette Demey et Bertrand Gréco de la Société des Journalistes du Journal du Dimanche. Et Caroline Fontaine de la Société des Journalistes de Paris Match. Et je vais vous laisser, Isabelle, Raphaël, dire un mot de pourquoi ça nous a paru aussi important que ce prix soit remis aujourd'hui notamment.
Oui, quand les Assises du Journalisme nous ont fait le plaisir de nous demander d'être leur présidente et président du jury cette année, nous nous sommes demandé quelles pattes nous pouvions y apporter, ce que nous avions envie d'y insuffler en tant que créateurs des Jours, un média indépendant et qui donc n'est pas à la merci d'actionnaires qui voudraient le mettre au service de leurs intérêts et de leur idéologie.
C'est pourquoi parmi les propositions pour le Grand Prix du journalisme Michel Léridon, qui distingue chaque année là où le journaliste, le média, le collectif ou l'action éditoriale qui a le mieux honoré, le mieux illustré les valeurs du journalisme, nous avons proposé, Isabelle et moi, que les sociétés des journalistes de Paris Match et du JDD soient nommées. Et ensuite, c'est l'ensemble du jury, à une quasi-unanimité, je crois d'ailleurs, qui a décidé de décerner ce prix.
Alors, les assises ont tweeté hier que ce prix était prémonitoire. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas voyants, on ne lit pas dans le marc du café d'Arnaud Lagardère, ni dans les tripes de Vincent Bolloré, même si ce n'est pas l'envie qui nous en manque, en fait. En fait, on est journaliste, et au jour, on travaille depuis plus de 7 ans sur l'emprise de Vincent Bolloré et la constitution de son empire médiatique, et on a vu, documenté, révélé sa destruction minutieuse de rédactions entières. Il y a eu ITélé, une rédaction qui est partie dans sa quasi-totalité, qui a été transformée en CNews. Il y a eu le service des sports de Canal+. Il y a eu Europe 1, avec une centaine de départs lorsque la radio a été mise sous tutelle de CNews. Il y a eu Prisma Média, il y a eu Paris Match. Et aujourd'hui, c'est au tour du JDD. C'est un système, en fait, désormais bien huilé, qui s'appuie sur un épouvantail. Dans le cas du JDD, c'est Geoffroy Lejeune, qui représente une attaque en règle de la déontologie des journalistes et de l'indépendance des rédactions. Il est destiné, en bon épouvantail, à faire peur aux journalistes, à les faire partir pour faire place nette aux médias conformes à l'idéologie de Vincent Bolloré. Et comme, dans une rédaction, ce sont les sociétés des journalistes qui défendent ces valeurs-là, ce sont elles qui se retrouvent en première ligne.
Quand nous avons décerné ce prix en mars au SDJ de Paris Match et du GD, elle n'était donc pas présente pour le recevoir. Et c'est Patrick Cohen, un ancien d'Europe 1, un ancien de la SDJ d'Europe 1, parti lors de la mise sous tutelle d'Europe 1 par CNews, qui a accepté de recevoir ce prix en leur nom. Et alors il a dit « Cette absence, elle témoigne des pressions, des menaces et des intimidations subies. » Je le dis moins bien que Patrick Cohen. Hein. « Elle vise à protéger de leur employeur, celles et ceux dont nous avons voulu honorer le combat. » Et au fond, elle légitime et elle justifie cette récompense.
Peine perdue, une semaine plus tard, Caroline Fontaine de la SDJ de Paris Match était licenciée. N'oublions pas ce scandale, les membres des SDJ ne sont pas des salariés protégés. 3 mois plus tard, c'est au tour du JDD d'être l'objet de cette destruction massive de rédaction par Vincent Bolloré. La terreur fait bouger les gens. Cette phrase, Vincent Bolloré l'a prononcée en 2015, au moment de sa prise de pouvoir sur le groupe Canal+, pour expliquer la façon dont il venait de virer une bonne partie de l'équipe dirigeante. Il serait temps que cette terreur nous fasse tous bouger, pour que les journalistes qui se retrouvent face à Vincent Bolloré ne se battent pas seuls. C'est pourquoi nous sommes heureux de remettre en personne le Grand Prix du journalisme Michel Léridon 2023 aux sociétés des journalistes de Paris Match et du JDD qui peuvent enfin venir le recevoir en personne.
Allez-y.
Merci pour ce prix qu'on n'avait effectivement pas reçu à l'époque. On est content ce soir, évidemment, que vous soyez tous là. On remercie RSF d'avoir organisé cette soirée. On est content que le combat que Match a mené puisse exister aussi, à nouveau. Qu'il a été un petit peu oublié ces derniers jours, mais ils y sont passés avant nous. Et voilà, merci à vous tous.
Je ne sais pas si on mérite vraiment ce prix, mais en tout cas, ça nous touche vraiment. On est en train de vivre un moment très particulier. Et le fait de voir tout le monde réuni ici en soutien, c'est très important pour nous. Ça nous aide dans un combat qui n'est pas facile et qu'on veut mener quand même. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble de la rédaction du JDD. Je te laisserai parler pour Paris Match. Parce qu'on est vraiment, un collectif, on est tous unis. On est vraiment une équipe qui avançons. Comme un seul homme, et ça fait chaud au cœur, comme la remise de ce prix et comme votre présence ici. Merci beaucoup.
Bonjour. Alors, je voulais te dire d'abord, évidemment, merci pour ce magnifique prix que je reçois en mon nom et pas en celui de la Société des journalistes de Paris Match. Et je vais prendre quelques minutes, je vais essayer d'être assez rapide pour raconter mon histoire, qui s'inscrit un peu dans la continuité de ce que le JDD vit, avec d'autres péripéties. Et je vous demande un peu d'indulgence parce que c'est un peu frais pour moi et je peux être encore un peu émue. Donc... Je voudrais aussi préciser que, évidemment, je parle là en mon nom propre et ce que je vais vous raconter, c'est ma version à moi et elle n'engage que moi. Donc, je m'appelle Caroline Fontaine, j'ai été licenciée de Paris Match il y a 2 mois, mon préavis vient de se terminer. J'ai passé 20 ans, pour la plupart merveilleuse, et ceux qui ici connaissent Match savent à quel point c'était un journal d'une extraordinaire liberté, un espace de liberté. Et il y a 2 mois, Bolloré et Lagardère m'ont brutalement ôté tout ça. Cette passion que j'avais pour mon métier et aussi tout ce qui faisait mon quotidien. Uniquement parce que je me suis battue contre eux pour préserver justement ce qui fait de Match ce magazine unique, mélange de rêves et de drames humains, de textes et de photos. Ce magazine vieux depuis bientôt 75 ans qu'ils assassinent sournoisement et en conscience pour le mettre au service de leur idéologie réactionnaire et de leur intérêt privé. Je tourne. À chaque fois, vous le savez désormais, c'est la même méthode pour le même résultat. Et je remercie les anciens d'ITélé, d'Europe, de Canal, qui nous ont raconté très en amont ce qui nous attendait. Bolloré sait que les SDJ sont mal outillés pour faire face à ces attaques. Mal outillés et leurs élus, qui sont bénévoles, ne sont pas des salariés protégés. Nos amis des jours l'ont rappelé. Alors c'est par là qu'il commence. Et pour nous, ce fut une en juillet dernier sur le cardinal Sarah, un évêque réactionnaire, une en rupture complète avec nos traditionnelles unes estivales, une qui n'avait aucun sens au vu de l'histoire de Paris Match. Et d'ailleurs, nos lecteurs ne s'y sont pas trompés. Une suivie rapidement du licenciement brutal de Bruno Jeudy, un rédacteur en chef très apprécié qui s'était opposé avec d'autres à cette une. Et pour le JDD, vous le savez, c'est l'arrivée d'un mec viré carrément de Valeurs Actuelles parce qu'il n'était pas trop à l'extrême droite. À chaque fois, l'affront est tel qu'ils savent que cela déclenchera les hostilités. Ce qu'ils attendent, et c'est ça qu'ils attendent, pour pouvoir à la fois identifier les meneurs, la solidité de la rédaction, mais surtout envoyer un message clair, partez, dépêchez-vous que nous puissions enfin mettre des gens à nous à votre place. Après cette une, après le licenciement de Bruno Jeudy, remplacé par Laurence Ferrari, arrivée directe de CNews, et une motion de défiance votée à 97% par la rédaction, ce fut pour nous de longs mois très violents de harcèlement et d'intimidation. Nous avons voté cette motion de défiance fin août 2022, mais aussi des communiqués ou des lettres à notre direction, qui ont toujours recueilli entre 93% et l'unanimité des votes. Et je précise que cela a toujours été fait dans les formes et par voie électronique, sans aucune triche, et qui sont restés toujours sans réponse. Nous avons alors sollicité des rendez-vous avec notre direction, avec celle du groupe. Nous avons nous aussi rencontré Arnaud Lagardère, à chaque fois pour rien. Eux n'espéraient que probablement essayer de nous endormir un peu, mais nous n'avons rien obtenu, pas même un début de négociation sur un comité éthique que nous proposions et pour lequel nous nous inspirions de ce qui existe dans d'autres médias. Comité éthique censé nous protéger des interférences de l'actionnaire. Quand leur machine est lancée, rien ne les arrête, parce qu'ils se savent au-dessus des lois. Ils m'ont convoqué à un entretien préalable de licenciement en réplique à l'envoi d'une lettre à notre direction en février dernier, votée par 93% de la rédaction, qui se désolidarisait d'un édito de notre directeur, Patrick Mahé, qu'il avait intitulé « Tentation totalitaire », où il défendait CNews contre les supposées attaques de la ministre de la Culture. À leurs yeux, probablement, le courrier de trop. Ils m'ont envoyé cette convocation alors que j'étais depuis 3 jours et pour la première fois de ma vie, hors un orteil cassé et le Covid, en arrêt maladie. La médecine du travail venait de monter alerter la DRH sur les traitements indignes que je subissais. Les syndicats avaient fait de même, des traitements que je subissais, mais je n'étais pas seule. Il y avait aussi ma collègue, mon amie, qui est elle-même élue au bureau de la SDJ, Mariana Grépinet. Et la rédaction venait de voter à 100% un texte qui s'indignait des intimidations dont nous étions les victimes. Si Bolloré, avec Arnaud Lagardère, mais aussi Patrick Mahé, Caroline Mangès, Laurence Ferrari, parce qu'il ne faut pas oublier les complices actifs de sa politique, m'ont licencié, ce n'était pas juste pour se débarrasser de celles dont ils pensaient, à tort ou à raison, car notre bureau était un collectif soudé, qu'elle était la meneuse. C'est surtout parce qu'il voulait envoyer un message très clair à la rédaction. Personne n'est à l'abri, pas même un membre élu du bureau de la SDJ. Alors ayez peur, taisez-vous et partez au plus vite. Pour qu'on puisse enfin mettre en place notre projet idéologique et détruire l'identité ancienne de ces médias, comme c'est déjà le cas malheureusement à CNews et Europe 1. En me licenciant, j'ai bientôt fini, hein. Bolloré et les siens veulent faire passer un autre message, et leur message est tout aussi clair. Ils montrent qu'ils sont au-dessus des règles et des lois qui protègent les salariés et la liberté d'expression des journalistes. Et c'est vrai. Aujourd'hui, en France, Bolloré peut virer en toute impunité une élue du bureau de la SDJ sans que les pouvoirs publics s'en émeuvent. Et si à Match, la rédaction a voté un communiqué, là encore à 100%, dénonçons mon licenciement. Si plus de 40 SDJ ont écrit une tribune s'en indignant, j'ai été abasourdie par le silence des responsables politiques. Car ce coupable silence ouvre la voie à tous les abus. Et d'autres s'y engouffrent déjà, on le voit aujourd'hui aux Échos. Or, en s'attaquant en toute impunité aux journalistes, c'est à nous tous citoyens que l'on s'attaque. Je demande donc, comme vous tous, au pouvoir public, à ceux qui nous gouvernent, qu'ils se décident enfin à protéger avec des lois adaptées nos médias, notre indépendance éditoriale et notre liberté d'expression. Enfin, pour finir, je voulais juste dire que j'avais passé 20 années magnifiques à sillonner le monde et la France, que j'avais fait des reportages dangereux, d'autres qui avaient été émotionnellement très durs. Et pourtant, je dis là devant vous, chers confrères et amis, j'ai presque fini. Désolée. Il me reste deux lignes. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, je voulais dire que malgré tout ce que j'ai couvert, malgré les horaires et les drames humains que j'ai couverts, eh ben, en fait, ce que Bolloré et ses sbires m'ont fait beaucoup plus de mal que tout ce que j'ai couvert dans ma vie professionnelle. Et ce n'est pas aussi facile que l'on croit de se relever de cette brutalité. Et même si je n'en suis probablement pas encore au bout, je connais désormais le prix à payer pour s'opposer à Bolloré. Et pourtant, malgré tout ça, malgré la violence de mon licenciement, je vous dis à toutes et à tous qu'il faut se battre sans peur, qu'il faut continuer cette bataille, parce qu'elle est cruciale. Pardon. La digue prend l'eau de toutes parts. Merci Juliette. Et on essaye avec nos petits bras de colmater les brèches, et quand l'une est colmatée, deux autres prennent l'eau. Et malgré tout, il faut se battre et continuer à tout prix à colmater avec nos petits bras les énormes trous qu'enfoncent Bolloré et les autres avec leurs machines. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas juste, et pourtant ça serait déjà beaucoup, l'indépendance de certains médias, mais c'est de notre démocratie dont il s'agit. Avant de terminer, je voudrais ajouter une dernière chose. Si je suis là aussi aujourd'hui, si j'ai cette liberté de pouvoir témoigner devant vous, c'est parce que je refuse de négocier. Et je sais que ce n'est, avec le groupe Lagardère, et je sais que ce n'est pas facile et pas possible non plus pour tout le monde. Mais je vous dis à vous tous ici, l'importance d'aller au prud'homme. C'est une étape nouvelle et radicalement différente qui est très demandeuse en énergie et soumise à la rigueur, la lenteur et l'aléa de la justice, mais qui se situe dans le prolongement naturel du combat si on veut aller au bout. Tenter de faire reconnaître les vraies raisons du licenciement pour soi-même, mais aussi pour le collectif. À Match, depuis le licenciement de Bruno Jeudy l'été dernier, près de 25 personnes sont parties, la plupart en silence. Et c'est aussi ce silence qui nous tue. Alors criez, résistez, battez-vous, ne lâchez rien et courage à vous.
Je voulais juste dire qu'on a tous conscience qu'aujourd'hui c'est formidable qu'il y ait autant de monde qui soit venu en aussi peu de temps ce soir, mais que c'est demain, après-demain, dans les jours, dans les semaines qui viennent, que ça se joue pour, autour des confrères du Journal du Dimanche, notamment, et que j'ai qu'un vœu, c'est que pour les prochaines assises du journalisme, au printemps prochain, on puisse faire une encoche à notre principe qui est de ne jamais remettre le prix deux fois de suite à la même personne ou au même collectif, et qu'on remette le prix à la Société des journalistes du JDD, parce qu'ils auront gagné ce combat avec vous et avec nous aussi.
Merci Frédéric. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreuses et plus nombreux également sur Internet, sur la page Facebook de Reporters sans frontières. Rejoignez-la si ce n'est pas déjà le cas. Bonjour à vous aussi qui nous regardez sur Twitch, chez David Dufresne, sur sa chaîne ou sur la mienne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça aussi, ça fait chaud au cœur. Je vous propose... je voulais vous parler. Il vient de publier un livre tout entier consacré à Vincent Bolloré sans jamais que son nom ne soit prononcé. L'ogre. C'est le titre de ce livre. L'académicien économiste Éric Orsenna n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais il a tenu à participer. Nous l'écoutons.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aurais, vous imaginez bien, été très heureux d'être avec vous. Malheureusement, je ne peux pas. Et pour la plus valable des excuses, je suis à une librairie devant des lecteurs. Donc au fond, c'est le même sujet. Alors j'ai écrit un petit texte. Puisque c'est ma manière, moi, d'être en colère, c'est d'écrire des textes. Voilà le texte. Il faut se méfier avec les ogres. Certains ne se contentent pas de dévorer. Derrière leur appétit se cache un projet. Un projet qui, le plus souvent, n'est pas une bonne nouvelle. Depuis longtemps, avec l'ogre que nous célébrons ce soir, depuis longtemps, les preuves s'accumulaient. Les renvois, les censures, les servitudes. On ne voulait pas y croire. On applaudissait au dynamisme, on expliquait le muselage par un mot magique, la synergie et la nécessité très moderne de s'ouvrir à l'international. On ravalait les haut-le-cœur devant ces plateaux quotidiens servant la soupe à des candidats haineux. On taisait la nostalgie de titres légendaires ravalés à des gazettes people. Rappelez-vous le temps jadis, celui du poids des mots et du choc des photos? Cette fois, le doute n'est plus permis. Derrière l'appétit de l'ogre s'affirme, sans vergogne, son projet. Travail, famille, patrie. Ça vous rappelle quelqu'un? Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes. Car plus que jamais, nous avons besoin de vérité. Qu'est-ce que la démocratie, finalement, sinon un régime où l'on accepte la vérité? Et jamais, jamais, jamais la vérité, dans un monde de plus en plus complexe, jamais la vérité, n'a été si difficile car si coûteuse à obtenir. Jamais la vérité n'a eu autant besoin de liberté. Ce qui se joue en ce moment au JDD, c'est l'avenir de la liberté, donc l'avenir de la vérité. Ne nous y trompons pas. Un mal déjà progresse, pire que la censure, car plus silencieux, plus insidieux, ce mal s'appelle l'autocensure. Protester, hélas, est nécessaire, mais j'ai bien peur que ça ne servira pas. Ça ne sera pas suffisant. Il devient urgent de s'unir tous et toutes pour définir ensemble un nouveau contrat entre la presse et notre société.
Merci. Merci à Éric Orsenna. Je vous propose d'accueillir maintenant Julia Cagé, professeure d'économie au département d'économie de Sciences Po Paris, présidente d'un bout des médias. Julia Cagé, bonsoir. On a beaucoup, je vous invite à vous rapprocher. On a beaucoup parlé des problèmes ce soir. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet de la concentration des médias, de leur modèle économique. Y a-t-il des raisons de se dire qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a un remède à ce mal?
Je pense qu'il y a deux raisons de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est d'abord le fait que vous êtes ici tous ce soir. Et puis je pense que la deuxième raison, c'est le fait qu'on vient d'entendre Caroline Fontaine nous raconter ce qui se passe année après année, en fait, depuis 2015 et depuis la prise de contrôle par Vincent Bolloré, d'abord d'ITélé, puis d'Europe 1, puis des magazines du groupe Prisma, puis de Paris Match, puis du JDD. Donc moi, la première question que j'ai envie de poser ce soir, elle est toute simple, c'est elle est où la ministre de la Culture? Je demande. Elle est où? Je veux dire, a priori, elle aime bien venir dans les théâtres et saisir un micro pour improviser un sketch. Là, moi, ça m'aurait fait plaisir, parce que la ministre de la Culture, c'est pour vous donner l'état de la démocratie dans laquelle on vit. Elle s'est levée dimanche matin. Alors, elle est allée acheter, et elle a vu qu'il n'y avait pas le JDD dans les kiosques. Et elle a tweeté, c'est dommage, il n'y a pas le JDD. Voilà, elle aurait pu tweeter aussi, je suis allée chez le boulanger,
Il n'y avait pas de croissant, j'ai pris un pain au chocolat, c'est dommage. Il n'y a pas de JDD. Et après, elle a continué son tweet. Elle dit, c'est dommage, mais on ne peut rien faire dans l'état de droit. Alors, je voudrais rappeler un certain nombre de choses que l'on peut faire dans l'état actuel du droit français, qu'on devrait faire dans l'état actuel du droit français, et que personnellement, j'aurais honte de ne pas faire aujourd'hui si j'avais la prétention d'être ministre de la Culture. Première chose, vous avez des aides à la presse qui garantissent l'équilibre économique des médias. Et c'est une excellente chose. Ces aides à la presse, elles garantissent également l'équilibre économique des titres qui sont possédés par Vincent Bolloré. Aujourd'hui, il est nécessaire de conditionner ces aides à la presse. Proposition toute simple. Pour pouvoir bénéficier, alors on peut le faire techniquement pour la ministre de la Culture au cas où elle n'a pas pris de notes, donc pour pouvoir bénéficier de l'attribution d'un numéro de CPPAP, donc c'est-à-dire notamment de la TVA à taux réduit et des tarifs postaux privilégiés, pour pouvoir en bénéficier, il faut qu'un actionnaire propriétaire de son média donne la garantie au journaliste qu'il puisse valider le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction par 50% des voix. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. Et je vais même vous dire à quel point c'est pas compliqué. Jusqu'il y a 2 ans, parce qu'ils sont nombreux les combats pour les médias, malheureusement, jusqu'il y a 2 ans, et jusqu'au combat entre ReWorld Media et la rédaction de Science et Vie. Donc, la rédaction de Science et Vie, finalement, ils ont dû quitter Science et Vie, et heureusement, ils ont eu la chance de créer un autre média, Epsilon. Jusqu'il y a 2 ans, pour avoir les aides à la presse, il n'y avait aucune conditionnalité en termes de nombre de journalistes. Donc vous pouviez être un média, bénéficier de la TVA à taux réduit et avoir 0 journaliste. Bon. Ben, on s'est réveillé, alors un peu tard, hein, je pense que la plupart d'entre vous vous étiez dit peut-être que dans les années 70, 80, 90, on avait pensé à l'idée d'avoir un journaliste pour bénéficier des aides à la presse. On s'est réveillé tard, mais on l'a fait. Voilà, il y a eu ce changement législatif qui a été fait. Il y a eu une mission flash qui avait été donnée à l'époque à Laurence Franceschini qui a dit voilà comment on va le faire. C'est passé dans la loi et aujourd'hui, vous ne pouvez pas bénéficier des aides à la presse sans avoir de journaliste. Ben, demain, il pourrait y avoir une mission flash. À vrai dire, il n'y a vraiment pas besoin d'une mission. Hein. C'est une ligne de loi et on conditionne l'attribution des aides à la presse. Et là, c'est à minima, hein, à la validation par le directeur ou la directrice de la rédaction. Non, à la validation par les journalistes du choix du directeur ou de la directrice de la rédaction. Puis on va aller un tout petit peu plus loin. On va quand même faire pareil pour l'attribution des fréquences audiovisuelles, hein, notamment CNews, parce que pareil, tout à l'heure, on mentionnait Vincent Bolloré, CNews, le rôle de l'ARCOM. Aujourd'hui, vous avez des contrats qui lient les éditeurs, ce qu'on appelle les éditeurs des chaînes, en l'occurrence Vincent Bolloré, ça lie les éditeurs à l'ARCOM. Dans ces contrats-là, aujourd'hui, vous n'avez aucune mesure en termes de gouvernance démocratique des médias. Et ça, c'est pas normal. Donc on a 2 outils entre les mains. L'attribution des aides à la presse, l'attribution des fréquences audiovisuelles publiques, il est quand même facile de s'en saisir. Et je veux juste finir en disant un tout petit mot, parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des politiques dans la salle. Engagez-vous sur ces questions, encore plus que jusqu'à présent. Déposez des propositions de loi, déposez des projets de loi, saisissez-vous de vos fenêtres parlementaires. C'est pas très sexy de faire des propositions aujourd'hui sur l'indépendance des médias pour la raison que rappelait tout à l'heure Christophe Deloire, le baromètre de la presse, les journalistes ne sont pas très populaires. Mais nous, si on n'a pas de journalistes, on n'a pas d'informations. C'est pas très facile pour les politiques de se saisir de ces questions-là parce qu'aujourd'hui, vous vous mettez à dos l'Empire Bolloré, bah vous vous mettez à dos une chaîne d'information en continu, une radio, des magazines, et puis en fait, les propositions dont on parle là, c'est pas simplement à Vincent Bolloré qu'elles vont pas plaire. La validation du directeur ou de la directrice de la rédaction par les journalistes, c'est un droit qu'ils avaient eu aux Échos. Il n'y a pas si longtemps. Et puis c'est un droit qu'on vient tout juste de piétiner. Donc aussi à tous les politiques qui sont là, liez-vous les mains par rapport à cette question, utilisez vos fenêtres parlementaires, posez des projets de loi, mettez en place une réforme ambitieuse des aides à la presse, prends la réforme de 86, je pense que fondamentalement il n'y a plus rien à en sauver, on la met à la poubelle, on réécrit une réforme qui garantit l'indépendance des médias à zéro, et ça, bah, franchement, en fait, comme politique, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Comme journaliste, je pense que là, les journalistes, ils font quand même largement leur boulot, parce que tous les journalistes qui sont ici, dans la salle de Paris Match,
du JDD notamment, Caroline a nous raconté le système, en fait c'est leurs postes qui sont en train de mettre en péril pour défendre la liberté de nous informer. Et donc c'est aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités. Et franchement, Madame la ministre de la Culture, cette réforme, elle est simple à faire, elle n'est pas compliquée, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que d'écrire un tweet. Donc s'il vous plaît, contre Bolloré, agissez. Merci.
Merci Julien. Il y a également Muriel Magellan, qui est écrivaine et metteuse en scène, ainsi qu'Adeline Fleury, qui est journaliste, romancière et essayiste, qui ont voulu s'exprimer ce soir par deux textes qui vont vous être lus par la comédienne Florence Huige.
Je vais commencer par le témoignage d'Adeline Fleury. J'écris. Depuis que je sais lire, j'écris. J'écris car j'ai du mal à décrire à voix haute ma pensée, mes émotions et ma sensibilité. J'écris car c'est ma manière à moi d'être au monde et d'être libre. Et si je suis romancière libre de plume et d'esprit aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu être reporter libre comme l'air par le passé. Et ça, je le dois au JDD. Le JDD, c'est un peu le journal de ma vie. Je suis de ceux ou celles qui observent le monde plus qu'ils ou elles n'agissent. Je suis de ceux ou celles qui passent la réalité au tamis des mots pour mieux la décrire, la transmettre et la réfléchir. Je ne savais pas que j'avais ce potentiel en moi. Un jour, un rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire national a su déceler cette aptitude. J'étais une toute jeune fille, 20 ans à peine, et j'entrais au stage dans ce grand journal que mon père lisait tous les dimanches. J'étais une toute jeune fille intimidée et facilement intimidable. Et pourtant, ce rédacteur en chef et son équipe m'ont tout de suite fait confiance, m'envoyant avec ma voix peu affirmée, ma frêle silhouette et mes fêlures sur le terrain. Je me vois encore un matin d'août sur la selle d'une moto, agrippée au dos d'un photographe chevronné, filant à vive allure vers une banlieue où une prise d'otage sanglante avait lieu dans une banque. Ce jour-là, j'ai envoyé balader toutes mes peurs et inhibitions pour amener le plus d'informations à la rédaction. Ce jour-là, je devenais reporter. Ce jour-là, j'avais trouvé ma place et j'avais la prémonition que je passerais mes plus belles années au sein de ce grand hebdomadaire national intitulé « Le journal du dimanche ». Le JDD est vite devenu bien plus qu'un employeur. Au gré des reportages et des rencontres, il a été mon école de journalisme. J'y ai tout appris, de la brève au portrait, en passant par l'enquête et les faits divers. Et au contact des journalistes talentueux, au caractère souvent bien trempé, il est devenu mon école de la vie avec des larmes, un peu, des rires, beaucoup, et des coups de gueule, passionnément. Une équipe qui, malgré les tensions, les différences de milieu et d'opinion, s'est toujours unie pour boucler tous les samedis soirs un journal généraliste et de qualité. Une équipe unie, derrière des valeurs fortes de tolérance et de liberté, laissant toute sa place aussi à la nuance, arme indispensable au dialogue constructif et à l'action collective. Nuance, tolérance, liberté. Ces trois valeurs sont aujourd'hui en danger, menacées plus que jamais par une idéologie nauséabonde, prête à balayer plus de 70 années d'histoire d'un journal et piétiner nos valeurs républicaines. J'étais une toute jeune fille, fragile à mon arrivée au JDD, et j'en suis sortie 15 ans plus tard en reporter aguerrie. Et la femme épanouie, l'écrivaine audacieuse que je suis aujourd'hui, ne peut se résoudre à regarder passivement se déchirer les pages du journal de sa vie. Adeline Fleury. Pourquoi je suis avec vous ce soir? C'est tout simple. C'est parce que quand je crée un personnage et que je me pose la question du journal qu'il lit, si je réponds que c'est le JDD, ce n'est pas comme s'il lisait Valeurs Actuelles. Pas du tout. Ça ne raconte pas du tout la même chose. Un personnage qui lirait le JDD laisse les champs ouverts. Tout est possible. Il a des recoins à surprise. On ne le catégorise pas, ou peu. On peut éventuellement dire qu'il n'est pas snob. On peut éventuellement dire qu'il lit le JDD et autre chose. Avec un personnage qui lit le JDD, on déplie les classes sociales, les âges, les couleurs, les tatouages. Il y a comme un soleil flou et ample. En revanche, avec un personnage qui lit Valeurs Actuelles, son monde se resserre immédiatement. Quelque chose le labellise, le cabre. Les lignes sont nettes. La lumière est blanche. Il n'est pas besoin de détailler davantage. Il me semble que cela s'entend de bon sens. Le JDD et Valeurs Actuelles n'habitent pas à la même adresse. Ils ne sont pas dans la même pièce, dans la maison de famille, pas du tout. L'aiguille de la boussole ne pointe pas pareil quand on indique l'un ou l'autre. Et de ma chambre de romancière, il me semble que ce n'est pas le moment de jouer avec nos socles et nos repères. Muriel Magellan.
Merci Florence. Je vous propose maintenant d'accueillir sur scène des responsables politiques. Comme Christophe Deloire l'a indiqué tout à l'heure, les invitations ont été lancées à droite comme à gauche. Par ordre alphabétique, donc, j'invite à me rejoindre David Assouline, sénateur de Paris, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias. Clémentine Autain, députée de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, LFI NUPES. Laurent Esquenagox, député Modem, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Violette Spilbou, députée du Nord Renaissance, qui vient de remettre un rapport sur l'éducation aux médias. Et Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Alors, David Assouline, on va commencer avec vous. Vous avez été, je l'ai dit, rapporteur général de la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias. Vous avez auditionné Vincent Bolloré. C'était en janvier 2022. On regarde un extrait et on revient dessus.
Vous n'intervenez pas pour imprimer cette marque dans les rédactions? Vous n'exercez pas aussi, à travers cette puissance médiatique, l'intérêt économique que vous avez par ailleurs? Ça n'a jamais été mis au service de vos activités économiques que j'ai citées par ailleurs.
Sur la question de l'intervention, comme vous savez, monsieur le rapporteur, puisque vous m'avez posé déjà la question il y a 5 ans, ce sont les 2 ou 3 mêmes histoires qui se répètent indéfiniment, le Crédit Mutuel et autres histoires de la même nature.
Voilà l'extrait que nous avons choisi. David Assouline, comment vous réagissez quand vous revoyez cet extrait?
Il a menti pendant toute son audition. Ce n'est pas là qu'il ment le plus, d'ailleurs, parce que ce qui se passe là, ce n'est pas seulement une concentration économique, ça a été dit. C'est un prédateur, il prend franc par sa puissance financière, économique des médias. Il a grandi son empire. D'autres le font. Et il faudra bien aussi légiférer pour limiter ces concentrations économiques parce qu'elles sont en soi dangereuses. C'est plus compliqué, mais il faudra le faire parce que les concentrations sont limitées par une loi de 86, mais n'existait pas le net, le numérique. Aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui sont sur toute la chaîne de création de la valeur, jusqu'au tuyau qui emmène l'information chez vous, de la production, de l'édition, de la diffusion. Et ça, c'est un phénomène qui n'était pas prévu dans la loi de 86 puisque n'existait pas le net. Donc, ce n'est pas qu'une concentration économique. Avec Bolloré, on assiste à un empire au service d'une idéologie et d'une idéologie d'extrême droite qui prône la haine raciste, qui est homophobe, qui est sexiste et qui se met en marge de toutes les valeurs de la République. Alors, dans les médias audiovisuels, pour avoir une fréquence, c'est interdit d'être une chaîne d'opinion. On dit qu'il doit y avoir le pluralisme interne, c'est-à-dire que chaque chaîne qui a une fréquence doit pouvoir, sur sa chaîne, exprimer l'ensemble des opinions et pas être au service d'une opinion. Donc déjà, il contrevient avec CNews à cela. Et il faut que l'ARCOM, au-delà des sanctions qui deviennent de plus en plus lourdes, eh bien, ait les outils pour retirer un agrément si, de façon répétée ou en tous les cas manifeste, il y a changement de nature de la convention. Il y a un rendez-vous pour l'ARCOM avec Bolloré. C'est qu'il va y avoir là la reconduction pour C8, pour CNews, etc. Et on va voir ce que va faire l'ARCOM. L'ARCOM peut très bien ne pas reconduire sur la base du bilan des années qui se sont écoulées où il y a eu cette répétition. Sur la presse écrite, puisqu'on parle du JDD, c'est plus compliqué. Parce que c'est le pluralisme externe. C'est-à-dire que c'est par la multiplication des titres que le pluralisme existe. Et les journaux peuvent être des journaux d'opinion. La preuve, ceux qui sont le plus clairement d'opinion, en tous les cas qui le revendiquent, l'Humanité, et on dit qu'il y a des journaux de gauche, après on peut dire est-ce qu'ils sont vraiment de gauche, mais il y a Le Monde, il y a Libé, et puis il y a des journaux de droite, il y a Le Figaro, tout ça fait un pluralisme. Mais nous avons franchi un seuil, là, dans la provocation de Bolloré. C'est que non seulement il se saisit d'un média, d'un média de presse, mais il rompt le pacte issu de la libération qui était que ce pluralisme existait dans le champ des valeurs de la République et que le reste était cantonné à des feuilles de chou, à des feuilles de propagande d'extrême droite. Et la banalisation qu'il y a dans toute la société vient maintenant interférer dans ce qui vient de se passer avec Bolloré, parce qu'il n'aurait pas pu faire ça. Ersan et d'autres ont pris de la presse, mais n'auraient jamais osé nommer à la tête d'un grand journal de référence qui peut plaire ou pas plaire, qui a pu être considéré comme de droite ou favorable au gouvernement. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça restait dans un champ. Et nommer un propagandiste d'extrême droite qui prône la haine raciste et qu'il a prouvé en dirigeant Valeurs Actuelles avec des unes à répétition qui étaient des appels à la haine. Et donc, là maintenant, le sujet, c'est de pouvoir légiférer pour empêcher un empire idéologique. Moi, j'ai entendu les propositions, je sais que j'ai fait 6 propositions depuis que je suis sénateur de loi sur l'indépendance des rédactions, sur la limitation des concentrations, mais pour que les lois soient votées, il faut des majorités. Et il n'y a pas eu encore de majorité pour dire des choses plus claires que ce qu'on a essayé de faire avec la loi Bloche, qui s'est révélée insuffisante, mais qui a quand même permis des choses. Merci. Je pense que les rédactions, aujourd'hui, il doit y avoir une étanchéité entre les groupes d'actionnaires propriétaires et les rédactions. Par un fait simple, Julia a dit 50%, on peut même aller à 60%, hein, parce que c'est le monde, 60%, et au JDD, ils sont à 98% contre la nomination. Donc, il y a un droit de veto, une possibilité pour une rédaction de refuser la proposition de l'actionnaire. Voilà ce que l'on peut faire.
On va en parler des propositions avec Clémentine Autain, à qui je vous invite à donner le micro. Clémentine Autain, Julia Cagé a demandé tout à l'heure à ce que la loi intervienne. Vous avez déposé une proposition de loi contre la concentration des médias. Et dans une tribune publiée dans Le Monde, c'était en fin d'année dernière, vous parliez des empires médiatiques comme celui de Bolloré qui dévorent notre démocratie. Alors vous proposez quoi ?
Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je veux dire que je suis ici, ce que je viens défendre ici, avec mes collègues de la NUPES. Je sais, je vois qu'il y a Alexis Corbière, Éric Coquerel, Sophie Taillé-Polian, des collègues députés de la NUPES et sans doute d'autres qui sont là ici. Ce que je viens défendre, c'est un principe. Et ce principe, c'est la liberté de la presse. Et quand on le défend, on ne doit pas le défendre à géométrie variable. Et bien que le journal du dimanche est souvent la dent dure avec ma famille politique et un point de vue souvent en marche, je veux sérieusement, sincèrement, saluer, tirer mon chapeau à la rédaction qui s'est levée à son sursaut au moment de la sidération qu'a suscité la nomination de Geoffroy Lejeune. Je le fais parce que l'information, ce n'est pas, ça a été dit, mais il faut le redire, ce n'est pas un bien comme un autre, c'est un bien public, c'est un bien essentiel. Et aujourd'hui, nous voyons bien qu'avec tous ces empires qui se sont constitués, il est menacé, cette information est menacée, parce que l'Empire Bolloré, ça a des incidences qui sont des incidences très concrètes sur la qualité même de l'information. À chaque fois qu'il passe dans une rédaction, le nombre de journalistes diminue, la précarisation est importante, il y a souvent de la sous-traitance, l'information est de moins en moins importante, c'est de plus en plus l'opinion qui vient là, il y a de la censure, de l'autocensure, je ne fais pas toute la liste, mais ça contribue à façonner le monde dans lequel nous sommes, et ce monde-là, il nous éloigne de la démocratie, parce que l'information de qualité, c'est essentiel pour la démocratie, parce qu'elle façonne notre regard sur le monde, parce qu'elle fait que les citoyennes et les citoyens s'engagent ou se désengagent, en tout cas qu'ils ont les outils pour savoir comment s'orienter dans le monde dans lequel il est, pour se forger soi-même une opinion. Donc c'est essentiel, et aujourd'hui, qu'un milliardaire puisse décider du contenu, faire la loi dans une rédaction, eh bien c'est tout simplement inacceptable en démocratie. Alors que faire ? J'y viens tout de suite, parce que ce que je veux défendre ici, c'est l'idée que la loi peut faire quelque chose. Et moi, j'ai été, comme Julia Cagé, très énervée, très en colère, suite au tweet de la ministre de la Culture qui s'alarme. Hein. Elle s'alarme, mais c'est bien de s'alarmer, mais quand on a le bouton pour appuyer, pour calmer le jeu, normalement, c'est pas très compliqué de faire quelque chose. Parce que si Vincent Bolloré peut avoir l'empire médiatique qu'il a et faire ce qu'il fait aujourd'hui, comme il a fait hier à iTélé, à CNews, à Europe 1 et j'en passe, et aujourd'hui au JDD, c'est parce que la loi lui permet de le faire. Et donc ce que nous devons faire, c'est que la loi ne permette pas à un milliardaire de décider à la place d'une rédaction. Et ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et donc je vous annonce très simplement ici que nous, députés de la NUPES, sommes en train, demain sans doute, je pense qu'on aura terminé, de déposer la loi qui va totalement dans le sens de ce qu'expliquait tout à l'heure Julia Cagé, qui revient à une forme de possibilité de la rédaction d'avoir le mot final sur la nomination du rédacteur en chef, et ça, il le faut, et il y a des biais concrets dans le cadre, en effet, du régime constitutionnel qu'on a de pouvoir le faire, mais je pense qu'il faut aller plus loin, et nous y travaillons pour avoir une loi beaucoup plus complète sur la lutte contre la concentration dans les médias. Et j'ajoute un point sur ce que nous faisons, c'est aussi la question des états généraux de l'information. Parce que alors, franchement, on attend Godot, souvent sur scène, mais alors les états généraux de l'information, ça ressemble vraiment à Godot. Et moi, je vous dis, s'ils ne sont pas capables de le faire, pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas avec un contenu qui serait le contenu que nous voulons, transpartisan effectivement, mais qui garantisse véritablement cette liberté de la presse. Un dernier mot pour vous dire que ce que je défends ici aussi, c'est un combat, le combat contre l'extrême droite. Il faut le prendre très au sérieux. Évidemment, l'extrême droite aujourd'hui, ce n'est pas égal au fascisme, mais l'extrême droite porte en germe dans son projet le fascisme. Et donc il faut que chacune et chacun mesure ce dont il est question avec cette nomination et avec le fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite, eh bien, elle est en train de faire son lit dans les institutions. Merci. Et dans les grands médias. Et ça n'est pas acceptable. Alors je termine d'un mot avec Bertolt Brecht en vous disant que la seule solution, c'est de lutter. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas, ils savent qu'ils ont déjà perdu. Vous savez ce qu'il reste à faire.
Merci Clémentine Autain. Merci Clémentine Autain. Laurent Esquenet. Laurent Esquenet, vous avez été le vice-président de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Et on sait que ces ingérences se font notamment via les médias. Là, nous avons sous les yeux une ingérence par l'argent en France. Quelle est votre réaction ?
Merci beaucoup. Comme vous le savez, j'ai finalisé la commission d'enquête sur les ingérences étrangères par l'audition de Mme Le Pen. Alors, c'est pas tout à fait la même team que celle qui est autour de Bolloré, mais bon, c'est un peu la même mouvance. Et donc avec des objectifs similaires. Donc là, on est aussi dans une forme d'ingérence. Et sur ce sujet, j'obtiendrai sans doute à la rentrée une mission flash sur les ingérences dans les médias. Donc je ne sais pas si le sujet pourra déborder des ingérences étrangères, mais très certainement, puisque dans l'ingérence, le sujet qui a été au sein de cette commission d'enquête, c'était le sujet de l'influence. Et donc, où est la limite entre l'influence et l'ingérence ? Voilà, donc ça c'était ce que je voulais dire. Je sors aussi de la mission d'information sur l'audiovisuel public, sur l'avenir. L'audiovisuel public qui fait son devoir d'information, il faudra qu'une chaîne qui appartient à un milliardaire fasse de même. Oui, j'ai aussi, je suis un jeune député, assez récent, mais j'ai aussi vécu toutes les transformations qu'il y a eu après Valeur, le rachat de Valeur, de Sud Radio, qui était une radio sympa avant, qui était près de Toulouse, mais qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Et toutes les autres médias comme iTélé, Europe 1, CNews, Paris Match et le JDD. Il faut que la presse écrite dispose des mêmes outils que l'ARCOM, qui vont être encore renforcés par la loi numérique de Jean-Noël Barrot. Et l'ARCOM a notamment sanctionné C8 la semaine dernière, lourdement. Et donc il faudra qu'il fasse de même avec CNews, en tout cas qu'il empêche de continuer de ce côté-là. Je voulais aussi dire qu'un rapport va être fait par ma collègue et présidente de la commission culture, Isabelle Roche, sur la loi Bloche, justement. Donc il faudra se poser les questions à la suite de ce rapport et la lumière des événements récents. Et pour terminer aussi, nous demandons le lancement des états généraux de l'information, puisqu'on les attend depuis un petit moment. Pour terminer aussi, on peut travailler aussi de façon transpartisane sur un nouveau texte, en évitant, comme ça a été dit tout à l'heure, la bipolarisation. Et voilà, donc je serai en tout cas disponible pour cela.
Merci Laurent Esquenet, merci beaucoup. Violette Spilbou. Violette Spilbou, vous avez co-présidé la mission flash à l'Assemblée nationale sur l'éducation aux médias. Cet après-midi encore, on a entendu Elisabeth Borne, c'était d'autres membres du gouvernement, le porte-parole en l'occurrence Olivier Véran, reparler de ces états généraux promis par le président de la République. Alors à quoi peut-on s'attendre ?
Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis assez impressionnée de cette mobilisation ce soir et je suis aussi heureuse de me retrouver dans cette configuration ici, sur cette scène, une configuration transpartisane qui a été voulue par Christophe Deloire et qui montre que nous devons agir ensemble. Nous sommes réunis ici parce que nous soutenons le JDD, nous soutenons la rédaction, les journalistes, parce que le JDD, c'est un héritage culturel et démocratique majeur dans notre pays, et aussi parce que c'est un véritable repère pour beaucoup de Français le dimanche. Alors oui, le président de la République a promis ses états généraux de l'information. Moi, j'y ai apporté ma pierre dans une première mission sur l'éducation critique aux médias. Et je souhaite, nous sommes nombreux à souhaiter, nous en parlons régulièrement avec la ministre de la Culture, pour que ces états généraux puissent très rapidement voir le jour. Nous voulons que ces états généraux garantissent et préservent l'indépendance des journalistes, l'indépendance éditoriale et le pluralisme en France. C'est maintenant une urgence. Nous traiterons dans ces états généraux de beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Le sujet du modèle économique de la presse et des aides à la presse, le sujet des ingérences, on se basera bien sûr sur les rapports émis, le sujet de la concentration des médias en relation aussi aux travaux qui sont faits à l'Assemblée qui existent, sur les propositions qu'on a faites sur l'éducation critique aux médias, et aussi un travail fondamental, je crois, qui est posé aujourd'hui par vous tous, c'est le sujet du métier de journaliste et de la place du journaliste. Donc, pour terminer, vous avez interpellé la ministre de la Culture sur son absence. Tout d'abord, elle s'est excusée, je crois, auprès de Christophe Deloire. Elle ne pouvait pas être là, mais nous sommes tous là, dans notre pluralité, pour prendre nos responsabilités. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas d'absence, je vous le dis. Il y a des paroles d'abord, les paroles, elles sont basées sur des valeurs, sur des principes que je crois nous partageons tous ici. C'est dire non à l'intimidation, dire non aux pressions, dire non à la censure, à l'intrusion, aux influences, à la violence et à la brutalité. Mais c'est aussi dire oui à des principes qui vous tiennent, vous les journalistes, particulièrement à cœur, et nous aussi, les politiques. L'honnêteté intellectuelle, la déontologie, la confiance, le droit à informer, à parler, à s'exprimer, le soutien aux droits des plus fragiles, et tout simplement dire oui à la démocratie. Donc, ensemble, nous allons passer aux actes. Faites-nous confiance.
Merci, Violette Spilbou. Merci. Marine Tondelier, on en a un petit peu parlé ce soir, mais l'argument massue de Vincent Bolloré lorsqu'il parle de ces médias, c'est la question du modèle économique. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il est possible de concilier pluralisme, indépendance éditoriale et modèle économique pérenne pour les médias ?
Je sens que vous voulez que je parle des milliardaires, mais je vais vous parler d'autre chose d'abord. Le fait est que l'information est devenue un sujet. Vérité, post-vérité, réalité, post-réalité, on lit des choses passées des fois où on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et ça, normalement, c'est votre métier que de nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vous donne deux exemples vus sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Le premier, c'est que Ségolène Royal allait devenir chroniqueuse pour TPMP. J'ai posé la question à la salle à des gens, j'ai toujours pas compris si c'était une fake news ou un vrai truc, donc je me dis qu'on saura bientôt. La deuxième info, que j'ai pas compris tout de suite si c'était vrai ou faux, c'était Geoffroy Lejeune, donc licencié, ça a été dit plusieurs fois, parce qu'il était trop d'extrême droite pour Valeurs Actuelles, qui arrivait à la tête du JDD. Et au début, ça m'a fait comme Ségolène Royal. J'ai dit, bah, ça doit être un truc, c'est pas le 1er avril, mais je sais pas, ça a l'air un peu bizarre. Et puis on est là ce soir, et donc je me dis que ça doit être vrai. Je me dis que ça doit être vrai, j'ai une pensée immense pour vous, j'étais très émue par le témoignage précédent, enfin, ce qui se passe est terrible, et c'est pas comme si on l'avait pas vu venir. Je suis choquée aussi de voir que certains politiques ne sont pas sur cette scène. Je voulais remercier celles et ceux qui y étaient. Je sais que le courage politique, ça ne s'achète pas, mais je me rends compte que peut-être le manque de courage politique, ça s'achète. Pas par de l'argent, mais par de la crainte, par de la peur. Et ça, je vais vous dire, ça me pose un problème. Mais peut-être qu'ils sont en train d'organiser un truc super pour vous soutenir, mais à part qui va être encore mieux. Donc j'attends, ils ne peuvent que nous surprendre. Je voulais vous parler de Geoffroy Lejeune, parce que quand il a été nommé, c'était un double effet qui se coule. Premier effet qui se coule, la sidération. Moi, en plus, je ne lis pas trop la presse d'extrême droite, mais en fait, si, puisque je suis élue d'opposition dans une ville d'extrême droite, et donc depuis très longtemps, je lis le journal municipal. C'est le seul journal d'extrême droite que je lis. Bon, c'est mon maire, le directeur des rédactions, mais ils ont l'air copains. Et donc, si le JDD, ça devient ça, je vais vous dire, je vais économiser de l'argent, puisque du coup, je ne l'achèterai plus. Mais... c'est la sidération, mais c'est aussi finalement un plan qui se déroule comme prévu. Bolloré, c'est pas une surprise. Il a l'avantage de pas se cacher. Il le dit, il explique et son plan se déroule comme prévu. Il est très cash dans ce qu'il veut faire. On a même des exemples précédents qui nous ont été cités. Mais on voit quand on dénonce un peu ça qu'on lui dit toujours oui, mais vous avez pas compris parce qu'en fait, il y a aussi des journaux de gauche, donc là, il y a des journaux de droite, tout va bien. Mais je vais vous donner la grosse différence. Il y a quelques temps, sur un service public, France 3, en l'occurrence Dimanche en politique, on m'a interrogé sur les manifestations d'extrême droite et j'ai été amenée à parler de ce climat d'extrême droite et aussi aux médias d'extrême droite qui le faisaient vivre et à mettre en cause CNews et Valeurs Actuelles. Bon, l'avantage, c'est que peut-être Valeurs Actuelles, maintenant, ça va être mieux, je ne sais pas. Et j'ai été menacée de mort pendant 3 semaines. Ça ne m'était jamais arrivé sur France Inter, ni à moi, ni je pense aux gens d'extrême droite qui vont sur France Inter. J'ai eu pendant 24 heures toutes les tranches horaires du CNews qui expliquaient des trucs que je n'avais pas dit avec des arguments fallacieux, des éditorialistes fallacieux. Et tout ça, c'est QFD. Valeurs Actuelles, plusieurs éditos, sexistes, misogynes, rétrogrades. C'était pas une question d'être d'accord ou pas, c'est que c'était mensonger. Et puis, jusqu'à des menaces de mort dans ma boîte aux lettres avec écrit « on sait où t'habites, on se vengera », etc. Ça n'arrive que dans ce média-là, je suis désolée. Donc en fait, on peut être de droite, de gauche, de ce que vous voulez, mais non, à la fin, CNews, Valeurs Actuelles, ex-version, on verra, et le reste des médias, c'est pas pareil, et ça, je veux qu'on se le dise. Ensuite,
merci.
La question, ça peut être, évidemment, on fait quoi ? Alors, je vais pas vous dire de faire la ZAD au JDD, sinon ça va encore... Puis en plus, vous allez être dissous, donc faites très attention à vous. Mais... Puis attention, après, c'est garde à vue, c'est avec les services de l'antiterrorisme. Donc c'est, ça ne plaisante pas. Et ça vous fait rire parce qu'on est des gens qui avons de l'humour, mais c'est quand même la réalité, donc ça fait en même temps froid dans le dos. Je vais vous parler des milliardaires parce que j'ai été beaucoup conspuée, d'ailleurs beaucoup par des journaux détenus par des milliardaires, mais en fait c'est tous. Donc voilà. Sur le sujet des milliardaires, on a parlé de la manière dont ils accumulaient leur richesse en exploitant soit, c'est simple, il y a deux manières, soit on hérite, soit on exploite les ressources naturelles, soit on exploite des femmes, des hommes et des enfants, et parfois même tout ça en même temps. Il y a la manière dont ils gagnent l'argent, et puis il y a la manière dont ils le dépensent. Alors, au début, quand on a un peu d'argent, on s'achète des chacs à main, des grosses voitures. Enfin, d'ailleurs, ça ne va jamais pour le climat, hein, quoi que ce soit, mais ça grade. Puis ça se finit par des super yachts et des jets privés. Et puis, à un moment, on essaye d'acheter le pouvoir, et donc l'information. Et là, c'est quelque part encore plus grave, et ce qui est en train de nous arriver. Avant, on avait même Internet. On disait au moins Internet, c'est un espace de liberté, et même ça, ils l'achètent. Ils achètent Twitter, ils achètent les différents réseaux sociaux, et on voit bien que ça va mal se terminer. Yes. Alors bon, bah, désolé de plomber l'ambiance, mais juste pour vous dire que ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer, que c'est pas juste la presse, c'est un recul de l'état de droit et des libertés publiques qu'on peut voir dans différents domaines de la vie politique et qui doit nous alerter. Et ce que je voulais vous dire de mon expérience à la fois d'écologiste qui crée un peu de résilience dans la vie et d'élu d'opposition à Hélène Beaumont, ce qui crée un peu de résilience aussi dans la vie, c'est que, premièrement, ne croyez jamais que ça n'arrive qu'aux autres. Et ça, je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte. Deuxièmement, ne baissez jamais les yeux, ni la tête, ni rien. Mais ça, je pense que vous êtes bien parti pour. Et troisièmement, chérissez cette solidarité, parce que ce soir, je vous vois dans la salle. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, il y a des gens que je ne croise pas souvent. Et en fait, c'est ça qui est beau. À la fin, j'ai envie de vous dire, on est là, on est là, on est là, même si vous ne les aimez pas, ben, on sera là. C'est comme ça. On sera toujours là sur ces sujets-là. Et donc, au nom des écologistes, je voulais vous assurer de notre soutien plein et entier. Toi, que vous écriviez sur nous, quoi que vous disiez de nous, on sera toujours là parce qu'on sait pourquoi on le fait. Alors, merci et on continue.
Merci, Marine Tondelier. Merci beaucoup. Avant que vous quittiez la scène, David Assouline, vous vouliez conclure avec une citation de Victor Hugo.
Oui, Victor Hugo, en 1848... a dit « La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. » Eh bien, s'il y avait le droit de vote, mais plus qu'une opinion, ce droit de vote serait vidé de sens et inversement. Mobilisez-vous pour le JDD, la liberté de la presse, comme on se mobiliserait si le suffrage universel était supprimé.
Merci David Assouline, merci à tous. Je vous invite à quitter la scène. Allez-y, retournez vous installer. Merci beaucoup. Il y a également l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui a également souhaité nous envoyer un message. Il n'a pas pu être là. Je vous laisse le découvrir. On l'écoute.
Mesdames, Messieurs, chers amis, vous êtes réunis ce soir pour une grande cause, celle de la liberté de la presse, de l'indépendance des journalistes, mais aussi cette cause importante qu'est celle du pluralisme en démocratie. Vous inquiétez légitimement d'un processus de concentration dans la presse et dans l'édition qui pourrait conduire des actionnaires de grands groupes industriels à faire main basse sur les médias et les moyens de communication afin d'y faire prévaloir une ligne éditoriale qui est par ailleurs en contravention avec les principes et les valeurs de la République. Qu'un grand journal comme le Journal du Dimanche puisse voir à la tête de sa rédaction un journaliste dont toutes les orientations et les prises de position témoignent de son appartenance à la mouvance d'extrême droite ne peut qu'inquiéter la rédaction du Journal du Dimanche, dont il faut saluer aujourd'hui la mobilisation extrêmement courageuse. Il ne s'agit pas simplement de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer et qui s'est déjà produit dans d'autres médias, audiovisuels notamment. Il s'agit aussi, à travers cette mobilisation, de faire en sorte que les pouvoirs publics, le législateur, puissent prendre leurs responsabilités pour faire en sorte que de tels événements ne puissent plus se produire à l'avenir. Il faudrait notamment pour cela garantir l'indépendance des journalistes, quelles que soient les circonstances qui peuvent affecter ici ou là la structure du capital de tel ou tel organe de presse. Et la meilleure manière d'atteindre cet objectif serait de faire en sorte que les rédactions puissent valider à une majorité qualifiée la direction qui leur est imposée ou qui leur est proposée, de telle sorte à ce que l'indépendance de la rédaction et des journalistes puisse être garantie. Je sais le combat très courageux de Reporters sans frontières et de l'ensemble de la presse française pour que ces principes prévalent dans notre pays, mais qu'ils prévalent aussi partout à travers le monde où la presse se trouve muselée par des régimes autoritaires. Nous avons, en raison de ce qu'est l'histoire de notre pays, pour des raisons plus particulièrement qui tiennent au fait que la liberté de la presse et l'avènement de la République ont été deux phénomènes qui ont été conjoints et qui ont permis à notre pays de construire son histoire politique, ses institutions politiques, dans une aspiration irrépressible à la liberté d'expression, il est hautement souhaitable que nous puissions continuer à voir la presse organisée de telle sorte que les libertés fondamentales dans notre pays soient toujours garanties et que l'indépendance des journalistes, bien précieux, trésor absolu, soit préservée par le législateur et les institutions comme la pierre angulaire de notre système démocratique. C'est la raison pour laquelle je vous exprime mes regrets de ne pouvoir être parmi vous, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous adresser ce simple message en sincérité et en solidarité avec vous, car rien ne peut nous conduire à accepter que les idées d'exclusion, de rejet de l'autre, qui ont toujours présidé au positionnement de l'extrême droite, puissent s'emparer aujourd'hui des moyens de communication et d'information dans notre pays. Courage à vous et soyez assurés de mon soutien.
Merci Bernard Cazeneuve d'avoir qui a tenu à nous envoyer ce message. Avant d'avoir la dernière séquence de cette soirée avec les journalistes du JDD, nous allons avoir un interlude musical qui va nécessiter l'installation d'un tout petit peu de matériel, mais ça devrait être assez rapide. J'en profite puisque j'ai reçu un texto entre-temps. C'est Fabien Roussel qui avait prévu de venir ce soir, le secrétaire général du Parti communiste, qui regrette de ne pas pouvoir être là. Il a été retenu et il tenait quand même à vous dire un mot. Je le cite. « Je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Mon plein soutien à la rédaction du JDD qui se bat pour son indépendance et pour ne pas être à la remorque de l'extrême droite. Je connais votre professionnalisme. Je vous apporte toute ma solidarité dans votre juste combat. » Donc là, le temps qu'on finisse d'installer, ça va être le moment où je vais meubler. C'est le moment IKEA de la soirée. Merci à toutes et à tous, notamment à celles et à ceux qui nous suivent sur Internet. Vous êtes extrêmement nombreux, plus de 3000 personnes sur Twitch. J'ai vu, je regarderai les chiffres demain, mais probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui nous regardent. Et pour meubler, je vais en profiter du coup pour m'adresser assez directement à celles et à ceux auxquels je m'adresse depuis 8 ans maintenant, c'est-à-dire les jeunes. Vous dire que le combat dont on parle ce soir et que vous entendez actuellement n'est pas un combat des journalistes, c'est un combat de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. La liberté de la presse, ce n'est pas la liberté des journalistes de faire du journalisme, c'est la liberté de tout le monde en démocratie de recevoir et d'émettre des informations et de participer au débat public. Protéger cette liberté, c'est absolument essentiel pour l'ensemble du système démocratique et ça ne se limite pas uniquement aux médias. Soutenez vos journalistes, on en a tous besoin.
Tu veux, si tu veux, je me présente, tu fais le langage des signes. Bonjour. Je suis un peu la caution feel good de cette soirée. Déjà bien chargée. Ça va ? Cool. C'est bien pour moi. Je me prépare au cas où un jour je veux chanter un enterrement ou quelque chose comme ça. Bon. On m'a demandé finalement de chanter qu'une chanson, parce que donc j'ai décidé d'en choisir une. Là, je viens d'en choisir une dans ma tête. Elle dure 20-25 minutes. Ça va être très sympa. De toute façon, une bonne soirée ne peut pas se passer sans un intermittent qui vient un peu parler. C'est vrai que c'est toujours un peu cool. Au début, quand ils m'ont appelé tout à l'heure pour venir chanter ce soir, j'ai cru que c'était la nouvelle rédac qui faisait son pot de bienvenue. Du coup, ouais. Je serais pas venu du coup. J'étais un peu vexé parce que c'est vrai que j'essaie de montrer quand même que je suis plutôt de l'autre bord. C'est vrai que d'habitude j'attaque toujours un concert en disant que je suis content d'être là. Je vous avoue que je préférais qu'il n'y ait pas de moment comme ça, qu'on puisse se dire que tout est préserver, que les choses pour lesquelles on s'est battu pendant des siècles ne bougeront pas. En tout cas, je suis vraiment très honoré, surtout d'être là et de voir des gens qui se déplacent comme ça spontanément pour défendre des idées. J'ai l'impression que c'est un peu la dernière preuve de notre humanité. Donc bravo et merci d'avoir organisé ça. Merci beaucoup. Et maintenant, la queue leu-leu. Je voudrais mettre une balle dans la tête de mon époque, dans la tête, dans la tête, dans la tête de mon époque. Je voudrais mettre une balle dans la tête, ouais.
Du coup, je vais entrecouper, comme j'ai qu'une chanson, je ferai des petites pauses.
Regarde-la bien en face, cette peur qui nous étrangle, l'avenir qui nous glace, cet arrière-goût de cendre. Regarde-le bien en face, notre siècle qui s'effondre, tous ces efforts faits pour mourir contre la montre. Regarde-les bien en face, tous ces corps qui se brisent, toutes ces jambes qui lâchent, ces épaules qui s'épuisent. Regarde-nous bien en face, dormir aux enterrements. Putain, on vit trop vite, putain, on meurt trop longtemps. Regarde le bordel, regarde bien tous nos échecs à la chaîne. Regarde la forme, retiens jamais le fond, ouais. On visait le ciel, on a touché le plafond, ouais. Regarde bien en face l'amour qui s'emmerde. Regarde bien la grâce sortir nos pommes belles. Regarde nos forces réveillées trop tard. Regarde en face l'espoir qui part faire le trottoir, hey. Je la regarde et je tremble, car je sais que je lui ressemble. Je voudrais mettre une balle dans la tête de mon époque. Je voudrais mettre une balle dans la tête, dans la tête.
N'hésitez pas à chanter, hein. C'est bien.
Dans la tête, dans la tête de mon époque. Regardez bien en face nos sanglantes frontières. On pourrait construire des cimetières au fond de la mer. Dire qu'on pense que la mer pourra laver nos crimes. Regardez bien ce titre, madame génocide. Regardez-le. Regarde ce pays des droits de l'homme préféré. La loi du roi du top du vent, la vache blanche à la main. On préfère condamner ceux qui veulent que ceux qui ont crevé. Faut qu'on apprenne à ne rien faire. Faut qu'on apprenne à mieux se parler. Faut qu'on apprenne à mieux se lever. Faut qu'on apprenne à désarmer la peur.
Rassemblement Lorraine n'est pas un actionnaire comme les autres.
On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous.
Pascal Pro, putain, qu'est-ce qu'on attend pour tirer la chasse d'or? Regarde les forts, les faibles, regarde bien la fin de la reine. Regarde-la qui résonne, cette colère qui gronde. Promis, je vise personne, je tire sur tout le monde. Je la regarde. Et je tremble, car je sais que je lui ressemble. Je voudrais mettre une balle dans la tête de mon époque. Je voudrais mettre une balle dans la tête, dans thank you.
Merci beaucoup Martin Luminet, merci beaucoup. Et pendant qu'on retire son piano, j'invite... Ou alors on le laisse, hein. Peu importe. Nous sommes là ce soir pour soutenir leur combat pour l'indépendance éditoriale et la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la rédaction du JDD que j'invite à rejoindre sur scène. Venez tous.
Je pense que on nous aurait dit ça il y a une semaine, c'est-à-dire mardi dernier, alors qu'on préparait le journal qui allait arriver dimanche mais qui n'est pas sorti. On ne l'aurait pas cru, on serait dit mais non, c'est pas vrai, c'est une mauvaise blague, etc. Et en fait non, pas du tout, on est là. Et c'est franchement impressionnant de voir que... Voilà, le JDD, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà, c'est un peu l'expression qu'on reprend à chaque fois. On aime bien nous critiquer, on aime bien nous détester, mais bon, c'est chaleureux de voir en fait qu'il y a autant de monde. Au-delà du combat qu'on peut mener en fait aujourd'hui autour de la liberté de la presse, de l'expression, et franchement, on est un peu tous épatés, je pense, de voir que Reporters sans frontières, franchement, Christophe, merci d'avoir. Vous êtes une machine de guerre en termes d'organisation. Voilà, nous, on est juste en train de se rendre compte que faire grève, c'est crevant. Ça demande encore plus de boulot que le vrai boulot. Donc, on voit qu'en termes d'organisation, de rédaction, de track, de communiquer, de mobiliser toutes les sphères politiques, confrères, etc. Voilà, c'est un job à plein temps. Donc, merci RSF pour tout ça et de nous soutenir. Merci à tous ceux, députés, confrères d'autres rédactions. Je sais que vous êtes venus nombreux là ce soir. Donc merci de nous appuyer dans cette mobilisation. Et puis bah, tous les lecteurs, les citoyens, dans ce combat qu'on n'aurait jamais pensé mener un jour ou l'autre et qu'on commence à mener maintenant. Et puis j'ai envie de dire un peu un petit mot, mais de la part de toute la rédac, hein, côté député, législateur, bah, passer aux actes, ouais, c'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, je pense que c'est important. Ces états généraux de l'information, ils sont attendus depuis plus d'un an, je crois. J'espère que bah, notre situation malheureuse servira d'électrochoc, enfin, on l'espère tous. Alors c'est pas fini, hein, mais ce sera pas très très long, donc on a écrit un petit discours pour vous tous. Voilà, nous sommes donc le JDD, titulaire, pigiste, hein, chef de service, reporter, jeune ou plus âgé, ancien ou fraîchement arrivé, nous sommes ici devant vous, ensemble, tous profondément liés à notre journal, à notre site internet, à un titre qui est une institution de la presse et de la vie démocratique de ce pays. Vous aussi, vous êtes là, et vous êtes aussi le JDD. C'est un journal qui appartient à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en lutte pour notre indépendance. La rédaction du JDD, c'est une centaine de personnes, tout au plus. Mais c'est aussi tous les services supports, la pub, le marketing, la diffusion, les abonnements, on les oublie, mais ils sont aussi avec nous. C'est un peu, c'est peu, on peut dire, face à un empire, celui de Vincent Bolloré. Mais notre indéfectible attachement à ce journal et à ce qu'il représente nous anime. Nous nous battons pas à armes égales, mais nous ne baisserons pas les bras.
Nous ne baisserons pas les bras au nom des valeurs du journal, comme l'écrivent les anciens directeurs du JDD qui soutiennent notre mouvement de grève. Un journal est comme un pays, il a une histoire, elle l'engage. On ne peut gommer d'un revers de manche l'identité d'un titre sans mettre en danger les fondements du journalisme, de la presse et une part de ce que celle-ci apporte au débat démocratique. Par nature, un journal est un objet fragile. Le JDD l'est par sa singularité. À la fois quotidien du 7e jour et hebdomadaire du week-end, journal et magazine, point d'ancrage qui permet de relier la semaine finissante à celle qui va naître. C'est un cocktail subtil dont nul ne peut détenir seul la recette. Un équilibre qu'il faut prendre garde à ne pas rompre. On peut, on doit le faire évoluer, mais avec précaution. Tous ceux qui ont contribué un jour à l'élaborer savent à quel point l'alchimie de ce journal est délicate et complexe.
Depuis 75 ans, le JDD porte des valeurs républicaines de rigueur, de modération. Son ADN est fait de débats sereins, de pondération, de recherche des dénominateurs communs. Le JDD préfère le factuel au tapage, l'analyse éclairante aux commentaires qui échauffent. Il aime la politique, les livres, les sports, la culture, l'économie, la société dans sa grande, sa belle complexité. Mais il n'est pas et ne peut pas être un journal d'opinion. Nous ne baisserons pas les bras. Au nom de l'indépendance et de la liberté de la presse, nous ne sommes pas parfaits, nul ne l'est, et nous pouvons porter des idées diverses au sein d'une même rédaction. Mais nous nous retrouvons sur l'essentiel et avons tous à cœur d'exercer notre métier dans le respect des règles déontologiques qui le fondent. Comment le faire si nous ne pouvons plus nous baser sur des faits et sommes contraints de servir une idéologie ?
Nous ne baisserons pas nos bras pour nos lecteurs. Ce changement brutal de ligne éditoriale rompt la relation de confiance que nous avons avec eux, étroitement tissée depuis de longues années. Nous recevons depuis jeudi de très nombreux messages de fidèles du JDD qui n'achèteront plus ce quotidien pas comme les autres, ou cet hebdomadaire qui ne ressemble à aucun autre. Ils nous font part de leur tristesse, de leur lourd regret de voir leur rendez-vous dominical altéré, falsifié, dénaturé. Nous avons tous et toutes une histoire avec le JDD. Un souvenir d'enfance, des parfums d'encre de café, des réminiscences. Un vécu commun qui scelle une vieille complicité.
Nous avons vécu ensemble tant d'événements, des élections, des décès, des attentats, des cataclysmes, des guerres et des fêtes. De façon plus confidentielle, l'équipe, elle, a vécu des changements réussis, des projets avortés, des bouclages épiques, des engueulades mémorables et des moments de pur bonheur. Tout ce qui fait l'âme d'une rédaction, ses hauts, ses bas, ses moments de communion. Aujourd'hui, tout ça peut disparaître. Et c'est pour nous tous et pour chacun de nous un vrai déchirement. Nous sommes sidérés de voir notre travail, nos projets, nos vies coupés en net en raison d'une décision brutale et verticale prise sans considération pour les équipes qui font vivre cette belle entreprise.
Cette tristesse, cette colère, nous les transformons en détermination. Une immense détermination, celle de la cause qui est juste. Grâce à vous tous, responsables et représentants des sphères politiques, économiques, associatives, juridiques, sportives, culturelles et bien d'autres, venus par centaines nous témoigner votre soutien, nous savons qu'il faut poursuivre notre combat. Alors non, on ne va pas baisser les bras.
Merci beaucoup. J'avais juste une question. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Il était question que M. Lagardère vous rencontre cet après-midi. Est-ce qu'il est venu et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Vous n'êtes pas obligé.
Non, pas obligé.
Effectivement, Arnaud Lagardère est venu nous voir à la rédaction ce matin. C'est la première fois d'ailleurs depuis qu'il est à la tête de ce groupe qui met les pieds à la rédaction du JDD. Il ne nous a pas convaincus.
Merci beaucoup. Et pour conclure, je donne la parole à Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières.
Excusez-moi.
Merci beaucoup, merci Jean.
Je t'interromps juste.
Pardon, je t'en prie.
On me dit de ne surtout pas oublier quelque chose de très important, c'est que nous avons mis en place une caisse de grève.
Elle est à l'entrée.
Voilà, vous trouverez, vous saurez faire. C'est important, surtout pour les plus précaires d'entre nous.
Il y a aussi un site internet.
Voilà. Il y a un QR code. Vous trouverez... Les plus précaires, qui sont les pigistes, ont vraiment besoin parce que c'est encore plus dur pour eux. Merci.
J'espère que nous en sortirons tous avec, en tout cas, un peu plus d'optimisme, de l'action. On a besoin d'action. Ce soir, on s'est mobilisé. Maintenant, il va falloir continuer à soutenir le JDD. Il va falloir bosser de manière générale pour obtenir qu'on ait un modèle français en matière d'organisation démocratique des médias pour le droit à l'information, pour la liberté d'opinion et d'expression. À Reporters sans frontières, on a assez de boulot dans l'ensemble du monde. Je ne vais pas ici vous parler ce soir des pays dans lesquels on travaille et dont je ne comparerai pas la situation pour certains d'entre eux à la France. Mais il y a un enjeu essentiel dans l'ensemble des démocraties. On le voit avec des formes de décomposition, de transformation des médias et auxquels il nous faut répondre. Il y a tellement de sujets, les modèles économiques, les médias de propagande qui prétendent faire du journalisme et qui portent de la manipulation et de la lutte contre les démocraties, les réseaux sociaux, les algorithmes qui favorisent la désinformation et la capture oligarchique. Il y a quelques années, nous publions un rapport qui était intitulé « Médias, deux points, les oligarques font leur shopping ». Mais on n'imaginait pas que les méthodes en France iraient jusqu'à ce point. Voilà, nous avons besoin de ce nouveau modèle. On va travailler pour le développer le plus, pour faire des propositions. Et je voudrais, pour conclure, évidemment, remercier d'abord tous nos partenaires. Informer n'est pas un délit. Un bout des médias, journalisme et citoyenneté, Stop Bolloré. Le prix Albert Londres a exprimé sa solidarité aujourd'hui aussi. Je voudrais remercier JMD Productions de nous avoir ouvert dans l'urgence ce théâtre libre ce soir. Et puis permettez-moi un mot pour le conseil d'administration de RSF, Pierre Aski, son président, est là, et pour l'équipe qui mène un travail formidable sur tous les fronts, partout, et qui ce week-end, quand vendredi on a décidé d'organiser ce meeting, quand on en a parlé, n'a pas dit on a un week-end, dimanche soir à 23h, minuit, il y avait encore des gens dans l'équipe qui travaillaient, donc merci et merci à vous de les applaudir. Ce soir, c'était que le début. On va continuer. Il va falloir être tenace. Mais Il va falloir continuer, je le disais, sur un cadre plus large, puisque le problème ne se résout pas au nom de Vincent Bolloré. Mais vous disiez tout à l'heure, un journal qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on veut avoir le droit de le lire et d'y lire du journalisme de qualité. Et c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui. Merci encore et bravo d'être là. Franchement, c'est très impressionnant. Le combat continue, merci à tous. Merci.